Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 17h avec une belle après-midi ensoleillée. Vous êtes au soleil, vous êtes tranquillement à la maison à écouter RMC. Vous avez fait le bon choix, on va se régaler cet après-midi. On va dans un instant partir pour Roland-Garros. Première journée évidemment dans le tableau final. On verra où en sont nos petits Français. Il y en a beaucoup, il faut en profiter. Ça va peut-être pas durer très longtemps. Eric Salio, Florence Serra seront avec nous dans un instant. On va également partir tout à l'heure pour Bordeaux. Hein, Bordeaux qui va fêter son deuxième titre consécutif de Champions Cup et la parade eh bien, devrait s'élancer dans quelques minutes. On rejoindra Romain Asselin tout à l'heure. Et puis, également au programme cet après-midi, le Giro avec la 15e étape. Alors, ce n'était pas une étape de montagne aujourd'hui, c'est une étape de plat. L'occasion peut-être pour notre jeune sprinter français eh bien, d'aller récupérer ce maillot cyclamen qui lui va si bien, mais qu'il a laissé échapper hier pour quelques petits points seulement. Eh bien, aujourd'hui, on va voir si Magny est capable de le récupérer. D'ailleurs, je crois qu'il y a un sprint intermédiaire qui est en préparation. Mon cher Morgane Maurice, salut Morgane.
Bonjour à tous.
Alors, sprint intermédiaire, est-ce que Magny va aller le disputer ou non?
C'est pas sûr, Christophe. Il n'y a qu'un point à aller récupérer. Ça le mettrait à égalité avec Jonathan Narvaez, qui a pris le maillot cyclamen au Français hier parce qu'il s'était glissé dans une échappée qui avait pris le coup. Donc Narvaez qui est en tête de ce maillot cyclamen, un point devant le Français. Devant, Christophe, il y a une échappée de quatre hommes qui se sont pris les quatre premiers accessites, les quatre points. Il y a maintenant un seul point disponible pour ce peloton, pour le meilleur sprinter du peloton. On ne le voit pas encore à l'image, le Français Paul Magny qui a gagné deux étapes dans ce Giro. On a disputé déjà 50 km dans cette étape. On voit en deuxième position Narvaez justement avec ce maillot cyclamen qui va essayer d'aller chercher pourquoi pas un point. Un coureur de l'Alpecin en troisième position et un coureur au maillot blanc devant que j'arrive pas encore à reconnaître, Christophe, pour aller chercher ce point supplémentaire. Un petit point, c'est Narvaez peut-être qui va faire l'effort parce qu'il est condamné à aller chercher ce point.
Il va se faire pied de Magny
qui va le croquer forcément. C'est plutôt un grimpeur Narvaez avec son petit gabarit. Voilà, Narvaez sixième position sur ce sprint intermédiaire. Je donne l'identité du garçon qui fait le point, Christophe, dans quelques instants. Il reste 104 km à disputer dans cette étape et c'est Paul Magny justement avec son maillot rouge. Voilà, ça va le mettre à égalité avec Narvaez et certainement que tout à l'heure au moment du sprint final il reprendra à moins d'un incident, bien sûr, d'un incident technique ou d'une chute, il repassera devant Narvaez. On rappelle que Paul Magny a gagné deux étapes déjà dans ce Giro.
Ça va être chaud pour ce maillot cyclamen qui est l'équivalent du maillot vert sur le Tour de France.
Et qui est rose, une espèce de rose de fuchsia.
Un rose un peu foncé, qui est magnifique d'ailleurs, qui va très bien au teint de Paul Magny. Et on verra s'il peut le récupérer ce soir et surtout s'il peut le garder la semaine prochaine. Il n'y a plus beaucoup d'occasions pour les sprinteurs. En revanche, Narvaez pourrait encore prendre des points, lui qui a remporté trois étapes depuis le début de ce Tour de France. Merci Morgane, on te retrouve tout à l'heure. On est encore assez loin de l'arrivée de cette 15e étape qui se disputera tout à l'heure à Milan. 15h05 sur RMC. Après l'Italie, nous prenons la direction de Roland-Garros où nous allons retrouver notre père magique qui nous fait vibrer depuis des années et qui est là bien installé pour 15 jours supplémentaires. Florence Serra et Eric Salio qui sont en place dans leur petite cabine et qui doit être bien chauffée aujourd'hui. Salut les garçons.
Salut Christophe, salut à tous.
Salut Christophe. Bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver, ça y est.
Tu sais qu'il y a la clim, hein. Il y a la
traîne.
Et ça marche. Oui.
Et en plus, ça marche.
Et magnifique. C'est très important aujourd'hui.
On voit tous les gens qui sont en train de s'éventer sur le central. Il fait une température digne du mois d'août, alors qu'on est au mois de mai, hein.
Oui, on dépasse les 30 degrés. Et puis, ce sont surtout les premières chaleurs quasiment du printemps. Parce que si vous avez suivi le toit de Rome, il y a eu beaucoup de pluie dans la cité italienne. Bon, Madrid, c'est un toit spécial parce qu'il est à moitié couvert. Mais non, et on guette avec Florent les éventuelles défaillances des joueurs. Parce que avec cette chaleur, il va se passer des choses, Flo, on en est convaincu.
Ouais, surtout que t'as des matchs en plus là qui sont en train de se dérouler en 5-7. On pense à Davidovic, Dzumour et tout. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des joueurs qui se sont sentis pas très très bien aussi ce matin avec justement la défaite d'Arthur Géa contre Karen Khachanov. Mais on teste les physiques dès le premier jour et il faut justement gérer les efforts. Et c'est pour l'instant ce que fait pas trop mal Alexander Zverev sur le court Philippe Chatrier, Eric.
Oui, puisque l'Allemand, tête de série numéro 2, mène 1-7-0 face à Benjamin Bonzi. C'est une partie qui a commencé exactement 63 minutes, 6-3 Zverev, 2-1 Bonzi dans le deuxième. Et non, mais il y a beaucoup de trous dans les tribunes qui sont en plein soleil, quoi, parce que les gens ne supportent pas et préfèrent aller à l'ombre dans les allées du stade ou alors dans des cours annexes. Mais même les cours annexes, c'est t'en prends plein la tête. Hein. Faut vraiment se protéger. Hein. C'est très dangereux.
Ça ressemble à ce qui se passe tous les ans à l'Open d'Australie au mois de janvier, l'été austral. Mais c'est vrai qu'il y a eu des défaillances, notamment en Australie. On pourrait assister à la même chose ici à Roland-Garros, d'autant que la chaleur va se prolonger au moins pendant une semaine. Hein.
On se souvient tous du match assez dingue de Yannick Sinner contre l'Américain Spizziri. Il avait été sauvé par le gong, puisque je me souviens très bien, ils ont une échelle de chaleur, les Australiens, et au moment où Sinner était vraiment dans le dur, l'échelle est passée au curseur 5, et c'est à ce moment-là que tous les matchs ont été interrompus. Et je me souviens très bien, ça s'était joué à 20 secondes. À 20 secondes près, Sinner aurait peut-être abandonné l'Open d'Australie parce qu'il pouvait plus bouger, il était percu par les crampes.
Ouais. Est-ce qu'on a le même genre de perspective à Roland-Garros? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en cas de grosse chaleur? Ça va pas non plus être 40 degrés, hein, va être aux alentours de 30 degrés toute la semaine.
Je crois qu'effectivement il y a faut qu'on vérifie le règlement, mais si tu arrives
est-ce que tu peux fermer le toit s'il fait trop chaud, toi?
Oui, mais bon, c'est un tournoi outdoor quand même. Moi ça me choquerait.
Ouais, puis on a vu que leur toit il marchait à moitié dans le documentaire, ils fonctionnent que quelques fois dans la quinzaine. Faut pas trop l'utiliser, autrement ils vont nous tomber sur la tête.
Vois, ça peut jouer sur le physique aussi de Yannick Sinner. On va voir un petit peu ses premiers tours, mais on sait qu'il aime pas les conditions qui s'allongent quand ça dépasse 3h30, 3h50 de jeu. Là, il commence à avoir du mal. On pense à la défaillance physique qu'il a pu avoir contre Daniil Medvedev à Rome, alors que c'était le soir, il faisait plus lourd et moins chaud. Il commençait à avoir des crampes. D'ailleurs, Medvedev râlait un peu parce qu'il se faisait masser pour des crampes et il avait pris 3 minutes au lieu d'une minute 30. Donc, il y a plein de petits paramètres qui peuvent un petit peu troubler aussi certains résultats. Maintenant, Sinner est quand même bien favori, mais même en regardant Sacha Zverev qui est tête de série numéro 2, tu vois, c'est pas extraordinaire ce qui se passe, mais tu vois qu'il gère, il marche doucement entre les points, il y a des schémas de jeu courts, tu vois que quand il faut pousser, il en met un petit peu plus, mais qu'après, bon, il s'accorde 2-3 points ou c'est des filières plus courtes. On voit que certains joueurs sont en pleine gestion, en effet.
Alors, tout le monde va vouloir jouer le soir, du coup. La night session va être très très recherchée, j'imagine.
Tu as raison, il va y avoir à mon avis une lutte d'influence dans les couloirs du stade Roland-Garros. Je pense qu'Amélie Mauresmo va recevoir pas mal de visites de la part des agents, même parfois des joueurs, en disant écoute, moi la Nation, je suis pas contre, hein. Alors qu'on sait que les années précédentes les joueurs détestaient jouer en night session. Bon, c'est vrai que parfois on a vu des températures pas glaciales, mais on se souvient que Roger Federer, c'était pendant le Covid, avait été programmé, je crois que c'était son troisième tour pour jouer, et il avait fini à minuit, il avait détesté l'expérience, et le lendemain, il avait pris ses clics et ses claques, il avait quitté le stade. Et moi, j'avais eu la chance de m'interviewer deux ans plus tard au Masters.
Exact.
Et c'était la dernière interview qu'il donnait en tant que joueur, et j'avais posé la question, il m'avait dit, ouais, c'est vrai que Guy Forget avait pas été sympa, et il avait convenu que c'était une sorte de petit bras d'honneur. Ah, vous m'avez fait jouer le soir? Bon, vous saviez que j'étais un peu blessé. Je m'en vais. Et il s'était préparé pour Wimbledon.
Ah ouais, il avait quitté le tournoi comme ça.
Ah ouais, le lendemain, il avait pris une partie et il avait offert un WO à Berrettini.
D'accord. Et on apprend ça quelques années plus tard. C'est une bonne interview d'Eric Salio, de Roger Federer. Alors, la première night session, ce sera donc ce soir, avec un Français opposé à un garçon qu'on connaît bien, évidemment, qui dispute, on ne sait pas, peut-être son dernier Roland-Garros, un certain Novak Djokovic, qui va donc être sur le court ce soir. On ne peut pas dire que sa saison sur terre battue, Florent, était jusque-là couronnée de succès. Je crois qu'il n'a disputé qu'un match ou deux, c'est ça, un match.
Depuis Melbourne.
Donc, on est plein d'incertitudes concernant Novak. Hein.
Oui, mais c'est dans quel état physique est-il aussi? Après, Eric disait qu'il avait fait un bon bloc d'entraînement quand même en Grèce avec ses rundolos, tout ça. Donc, je pense que s'il vient ici, quand même, c'est pas pour faire premier tour. Et je pense qu'il doit être un minimum préparé. Mais en effet, son match en plus à Rome, il le joue, le deuxième set, il le joue quasiment pas parce qu'il avait des petits soucis gastriques au niveau de l'estomac, comme il faisait un peu envie de vomir. Je joue pas, finalement, je me remets un peu dedans au troisième. Bon, comme il a fait un petit peu parfois dans sa carrière assez souvent, mais c'est un match où il a pas trop de repères. Il perd contre le Croate Prismic, qui jouait très bien d'ailleurs à ce moment-là, mais c'est difficile d'arriver sur un grand chelem. Il sait le faire, il a montré à Melbourne avec un petit peu de réussite dans les tableaux qu'il était capable d'aller en finale à Melbourne, encore une fois avec de la réussite, je le répète. Mais là, c'est s'il joue, pour moi, c'est que bon, il a pas envie de perdre contre Giovanni Empeci. En plus, c'est un très très bon retourneur. Giovanni a pas gagné non plus énormément de matchs sur terre. C'est juste qu'on va voir comment il est dans les déplacements. Et peut-être que, je sais pas si c'est sur ce match qu'on verra comment il est physiquement, parce que c'est peut-être pas là où on va le voir le plus dans les déplacements et tout. Ça va peut-être plus être un match avec des filières un peu courtes. Et puis en night session avec des conditions un peu différentes d'aujourd'hui, mais. Tu sais, Christophe, Djoko, tu vois parfois dans les premiers tours, il monte en puissance et puis tu regardes comment il centre la balle. Parfois, il boise, il a les fesses en arrière, il en met un peu partout et puis il arrive à se régler. Donc, bon, on va suivre attentivement. Et
évidemment. Eric, tu l'as rencontré depuis qu'il est arrivé à Paris, Novak. Tu l'as senti dans quel état d'esprit à l'abord de ce tournoi ?
Il a l'air plutôt bien dans ses pompes. Il est arrivé très tôt à Paris, hein. Je crois qu'il était sur les cours d'entraînement dès mardi. Donc voilà, ça démontre aussi son professionnalisme. Ensuite, il a participé au fameux Megaday. Alors le Megaday, on en a beaucoup parlé, hein, qui était c'est un service minimum proposé par les Cadors. Mais lui, il faisait pas partie des joueurs grévistes.
Alors qu'il a longtemps été très revendicatif, voilà, quand même au cours de sa carrière. Hein.
Mais il a soutenu la cause. Mais en gros, il leur a dit, maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Oui, les Sinner, les Zverev, les Abalenka. Moi, j'ai beaucoup bataillé pour un résultat assez maigre, puisque le vrai combat, on le sait, c'est d'offrir un prize money supérieur à des joueurs qui sont entre la 100e et la 250e place mondiale, ceux qui gagnent péniblement leur vie, parce que les cadors sont pas pleins, hein. On connaît le prize money ici, c'est 2 800 000 euros au vainqueur, donc voilà, ils sont tous milliardaires quasiment. Mais je l'ai trouvé très détendu. Il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Il a eu un beau gâteau au chocolat offert par Amélie Mauresmo. Il a 39 ans. C'est aussi un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la cadence? Parce que un seul match d'Auteuil, c'est très peu. Mais s'il est là, c'est qu'il est prêt. C'est qu'il se sent prêt. Maintenant, il n'est pas à l'abri de tomber sur un Giovanni Empeci en feu. C'est un garçon qui peut servir 30, 40 aces par match, hein. Si
il a le bras chaud.
Si le truc est bien réglé. On sait que depuis quelques temps, Giovanni Empeci travaille avec Greg Rusedski, qui a été quand même finaliste deux fois en Grand Chelem, hein.
C'est un garçon, très bon serveur, grand aussi, un peu dans le registre de jeu d'ailleurs, sur lequel il voudrait amener Giovanni Empeci. Il a dit, je veux qu'il soit encore plus offensif. Ouais. Giovanni.
Ça va être intéressant, Christophe.
Parce que si
Giovanni prend le premier set, ça peut nous donner un truc assez sympa.
Et puis en plus, premier match pour Giovanni de ce tournoi sur le central en night session. Alors, est-ce qu'il va bien supporter la pression face à Djoko? Ça fait beaucoup quand même, hein, pour un jeune joueur, même s'il commence à avoir l'habitude maintenant.
C'est un garçon qui est assez placide, Giovanni. C'est pas ça qui va l'empêcher de dormir, je crois.
D'accord, bon.
C'est plus son niveau de jeu. Effectivement, il manque de, comme l'a dit Flo, il manque de confiance. Il a pas gagné beaucoup de matchs. Bon, il a pas eu des tirages faciles, mais bon, c'est vrai qu'il a pas gagné beaucoup de matchs. Il a eu aussi une petite blessure au poignet qui l'a privé du tournoi de Monte Carlo. Alors que je me souviens, il était sur place à Monte Carlo et on apprenait le dimanche ou le lundi qu'il était forfait. Donc ça a un peu perturbé sa préparation sur terre battue. Mais moi, je suis convaincu qu'il va sortir un big match contre le Serbe.
Eh bien, on verra. Après, ça, ce sera
Christophe,
donc ce soir. Oui, Flo.
Juste pour rebondir sur Novak Djokovic, puisque en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut attendre quelque chose de beau sur ce Roland-Garros? J'y crois moins à Roland-Garros. Déjà en Australie, il a fallu un petit WO de Mensik, et puis il était quand même mené 2-7-0 par Musetti. Hein. Il y a eu un peu de chance, encore une fois. Bon, là, il a un tableau pour retrouver João Fonseca au troisième tour. C'est l'enchaînement des matchs, comme on dit, avec Eric, la terre battue, même s'il va jouer tard le soir, c'est éprouvant. Tu passes 3 heures sur le court, il faut revenir encore 2 jours après. Tu repasses du temps. Il a du Casper Ruud qui est
Casper
un peu plus haut.
8e.
Je veux dire, bon, au bout d'un moment, à 39 ans, t'en fais un, t'en fais deux, tu joues un peu avec les émotions des autres.
C'est la première semaine, en gros.
ça va être compliqué. Je veux dire, s'il arrive en quart contre Demi-Nord, ça serait déjà, ou contre Echeverry ou Mensik, ou une grosse surprise, parce que bon, on va pas refaire le tableau et il peut y avoir d'autres surprises dans cette partie basse. Si tu le vois en quart, ça serait déjà un bon Roland, je trouve.
Bon.
Mais bon.
C'est pas gagné, c'est pas encore gagné. On aura des premiers éléments de réponse donc dès ce soir, 20h15 pour cette première night session entre Petit Péricard et Djokovic. Un mot des Français. Évidemment, on est encore sous le choc de l'info d'hier, à savoir le forfait d'Arthur Fils. C'est vraiment, évidemment, la plus mauvaise nouvelle qui venait après le forfait d'Alcaraz. Ça fait quand même beaucoup pour un seul tournoi. Le numéro 1 ou numéro 2 mondial qui abandonne le vainqueur sortant, puis le meilleur français, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut espérer de nos Français en l'absence d'Arthur Fils, Eric? Est-ce qu'on a d'autres espoirs qui pourraient nous amener, sait-on jamais, en deuxième semaine? On a beau rêver, on a du mal à y croire quand même.
Bah, faut être lucide. Il y a très peu de chances d'avoir des Français en huitième de finale. Voilà. J'ai regardé mes petites statistiques. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un Français en quart de finale ici à Roland-Garros. 10 ans. C'est quand même une période qui commence à être très très longue. Alors, ils sont 3 têtes de série, mais bon, on le sait. Moutet, Rinderknecht, ils sont dans l'autre tableau, donc ils ont rendez-vous avec Sinner très vite. Et puis Hugo Humbert, lui, il est dans la partie tableau de Zverev. Donc Eric. Hugo Humbert, il vient d'Hambourg, il a gagné 2 bons matchs, il jouera Manarino demain. Et ensuite, il pourrait, pourquoi pas, jouer un Français, Quentin Alice, s'il se débarrasse de Mattia Bellucci.
Donc, Eric, je vais te couper quelques instants. On va aller au Quintet, on revient vers vous dans un instant, mais on ne fait pas attendre les chevaux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Fred Kita est à Longchamp. Il n'attend pas, lui non plus. Salut Fred.
Oui, salut Christophe. Salut à tous. Effectivement, on n'attend pas sur l'hippodrome de Longchamp avec cette phase finale du Quintet Plus. C'est très serré, hein, pour l'instant, avec le numéro 4, Pure Légende, qui va résister peut-être côté corde dans cette compétition. Pure Légende, hein, qui va peut-être s'imposer. C'est très serré. C'est lui qui s'impose, le numéro 4, Pure Légende. Ensuite, il y a beaucoup de chevaux qui ont très bien terminé leur parcours, notamment l'as Tortizambert qui a bien couru dans cette compétition. On a également le numéro 2 Afogado qui a refait le champ de course pour peut-être se classer 3 ou 4e. On a Talentuoso, le numéro 5, qui est également bien placé, et Krashkov, hein, le numéro 6, l'un des favoris, qui se comporte très bien également dans ce Quintet Plus. Alors c'est une arrivée très serrée et une arrivée assez surprenante, hein, puisque c'est le numéro 4 donc qui s'impose. Donc Pure Légende à 33 contre 1 devant l'as Tortizambert, 20 contre 1. La troisième place pour l'instant, il y a Photographie entre le numéro 2 Afogado, plus de 30 contre 1, et le numéro 5 Talentuoso à 26 contre 1, et aussi Photographie pour la 5e place entre le 6 et le 7. Arrivée provisoire, donc 4 As, et ensuite Photo entre le 2 et le 5 pour la 3e place, entre le 6 et le 7 pour la 5e place.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, Fred Kita pour le Quintet qui se déroulait en direct de Longchamp. Retourne à Roland-Garros, c'est pas très très loin évidemment. Roland-Garros qui a donc débuté aujourd'hui officiellement, mais ça a déjà débuté depuis une semaine avec les qualifs qui ont offert de très beaux spectacles. Mais là on est dans le tableau final avec donc des premiers Français qui sont sur les cours, et on peut pas dire que pour l'instant ça se passe le mieux du monde pour nos espoirs français, Eric.
0 sur 3, donc voilà, c'est négatif. Mais bon, on n'attendait pas de miracle de la part d'Arthur Géa, qui a été battu en 3-7 par Karen Khachanov, qui est comme une valeur sûre du circuit. Défaite 6-3, 7-6, 6-0. Il vient de déclarer en conf de presse qu'il était un peu malade, ce qui explique ce départ précipité vers les toilettes du Lenglen, parce qu'il ne pouvait plus tenir concrètement, et il avait un gros souci. Donc Géa sorti, élimination aussi de Clara Burel, qui revient de blessure puisqu'elle avait été gravement touchée au genou au mois d'avril 2025. Elle a eu une wildcard, mais là elle n'est pas encore en rythme. Et puis la troisième défaite, c'est celle de Kyrian Jacquet, qui sortait des qualifs, mais voilà, il a peut-être eu du mal à digérer ses efforts. Il était battu par l'Argentin Trunchiletti 6-4, 6-2, 6-2, et c'est mal engagé pour Benjamin Bonzi sur le central, puisque il est nettement dominé par Sacha Zverev. Un set, un break, hein, c'est ça Flo?
Ouais.
Et un autre Français qui a mal débuté, c'est Tito Androguet, qui vient de perdre le premier set 6-3 contre Mensik. Donc on peut être à 0 sur 5 dans une heure et demie, Christophe.
Bon,
c'est pas mal.
Mais ça commencerait bien, ça, mais ça donne le tour.
Mais non, mais de toute façon, depuis hier, c'est la cata, quoi. Moi, j'ai pris un coup sur la tête, quoi.
Ouais.
Sur le coup de 16h, là, j'étais off. Et
tu t'y attendais pas, Eric?
Si,
franchement.
Je m'y attendais. Bah ouais. Bah oui, on n'est pas né d'un dada pluie. Quand un mec s'entraîne pas, c'est qu'il y a un problème. Quand il va se cacher sur le court 21 à Jean Boin, c'est qu'il y a un problème. Donc le seul souci, c'est que la crainte, c'est que ce soit une rechute, quoi, de cette blessure au bas du dos.
Oui, parce que pour l'instant, il n'a pas vraiment expliqué, il dit qu'il ne savait pas. Mais enfin, ça fait 15 jours qu'il fait des tests, mais ils ne savent pas, a priori, ce qu'il a.
On n'est pas dupes, Christophe. On n'est pas dupes. Je comprends cette communication un peu évasive, mais oui, il y a de quoi être inquiet. Et ça paraît compromis aussi le championship de Wimbledon. Il faut dire les choses.
Ça vient assez vite. Hein,
et c'est dommage parce qu'il est, il est toujours cinquième à la race. Et tu vas voir, ce qui est dingue, Christophe, c'est qu'au prochain classement ATP, Arthur, il sera 20, 21, 22, on ne sait pas combien encore, avec zéro point issu des quatre grands chelems. Tu te rends compte? Il n'a pas joué, il n'a pas marqué un point dans les quatre grands chelems parce qu'il ne les a pas joués. Aussi simple que ça. C'est quand même dingue.
Alors que c'est vrai que les espoirs étaient quand même nombreux après ce printemps incroyable qu'Arthur nous a donné.
C'est là où t'as envie de le voir, Christophe. Ouais, sur un huitième contre Zverev, t'as envie de voir ce match-là.
C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant quand t'as un Français qui commence enfin à performer. C'est comme si on me disait, Paul Sexa, c'est forfait pour le Tour de France, tu vois. Je boufferais mon chapeau. Mais là,
chute dans la première étape, tu vois. Le tour est fini.
Ne fais pas le prophète de ma maison.
Non, mais ça ressemble à ça.
C'est ça. Ouais, t'as raison.
Ou même dans l'échauffement, mais du tour, quoi. Chute sur les routes de. C'est où? Il part d'où votre tour cette année?
De Barcelone.
Voilà, il s'entraîne dans les environs de Barcelone. Chute. Allez, au revoir. Bye bye. T'imagines le truc?
Non, c'est affreux.
T'es effondré, Christophe.
C'est affreux.
Tu déclares forfait, toi aussi.
Direct, je vais à la plage. Bon, les garçons, on n'est pas sans se reparler d'ici la fin de l'après-midi et d'ici la fin de la quinzaine. Tu nous disais donc Zverev qui mène 6-3, 4-3 dans la deuxième manche face à Bonzi.
Mais 0-30 sur son service. Il a raté un smash, mais bien, un smash de 32, on va dire.
Je me rattrape juste sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Christophe. J'avais dit que Novak avait joué qu'un match sur terre, mais en effet, il en a joué deux depuis l'Open d'Australie, puisqu'il avait joué Indian Wells quand même. Il avait perdu contre Draper.
D'accord.
Donc il a deux matchs seulement.
Bon, c'est bien de préciser, c'est bien de revenir, de dire qu'on s'est trompé. À tout à l'heure les garçons. Allez, 15h24, vous êtes sur RMC. Dans un instant, on va fêter le titre de l'Union Bordeaux-Bègles qui a été impressionnant hier face aux Irlandais du Leinster et qui donc décroche une deuxième Champions Cup d'affilée. C'est la fête cet après-midi à Bordeaux. On va retrouver Romain Asselin qui adore fêter les victoires en Champions Cup. Il n'arrête plus d'en fêter. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. Christophe Cessier.
15h27, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport. Nous sommes en direct de Roland-Garros avec Eric Salio, avec Florent Serra. Morgan Mori, lui, suit la 15e étape du Tour d'Italie. Et nous allons maintenant prendre la direction de Bordeaux, où il fait très beau, très chaud cet après-midi, et où la fête va être belle. La fête qui a débuté hier aux alentours de 17h30 et qui va se poursuivre donc tout au long de l'après-midi. Romain Asselin a très peu dormi, mais bon, c'est sa spécialité, les fêtes, les Champions Cup à fêter. Il a l'habitude. Il en a fêté deux avec La Rochelle, deux avec Bordeaux. Et on ne sait pas où il sera l'année prochaine, peut-être à nouveau avec La Rochelle, avec Bordeaux. Ça va, mon Romain? Comment ça se passe, cette belle parade bordelaise?
Bah écoute, c'est chaud, c'est chaud au niveau de la température, c'est chaud aussi dans les rues de Bordeaux. La parade est partie il y a une dizaine de minutes. Le bus impérial est resté un bon quart d'heure sur la place de la Comédie à festoyer avec les supporters qui sont venus par milliers, évidemment. Le bus est à une dizaine de mètres de moi. Je suis avec Martial, que j'ai vu sur le chemin du bus il y a quelques minutes, en kilt. Il était à Bilbao hier, un immense drapeau. Martial, là, vous kiffez votre moment, comme on dit.
Oui, je kiffe le moment parce que l'année dernière, c'était déjà extraordinaire. Mais alors cette année, le back-to-back, c'est vraiment mieux. Deux années de suite, on est champion d'Europe. Peu d'équipes ont réussi à faire cet exploit. Et là, franchement, le peuple de l'Ovalie bordelais est vraiment aux anges.
Bon,
vraiment.
Bilbao, c'est pas l'autre bout de la planète, mais vous avez dû avoir une courte nuit, non?
La nuit a été très courte, oui, c'est le cas de le dire, oui.
Alors, Marcel, regardez, on va se projeter vers le bus là qui va passer devant nous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ils vont pas vous entendre, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
J'ai trouvé hier que cette équipe avait faim. Et je veux qu'elle ne s'arrête pas là. Je veux qu'elle continue d'avoir faim et qu'elle ramène le Brennus à Bordeaux à la fin de saison.
Ah oui, voilà. Cette année, vous êtes gourmand alors.
Voilà, c'est ça. Très gourmand. Je l'ai trouvé vraiment pas rassasié du tout hier. Donc ce que je veux, c'est qu'il nous ramène le Brennus à Chaban et qu'on ramène la planche au Quinconce la fin juin. Voilà. Bon. Ça, ce serait vraiment le kiff total. Faire le doublé pour les 20 ans du club, ce serait génialissime. Franchement,
c'est pas fait encore, faut se qualifier. Bon, d'ici là, vous allez profiter. Bon. Vous serez à Chaban ou pas tout à l'heure? On rappelle qu'il y a des festivités à 18h30 pendant 2 heures.
Malheureusement, je peux pas aller à Toulon parce que je travaille le week-end prochain. Mais je serai, c'est sûr, début juin à Chaban pour voir le dernier match contre Clermont.
Alors, le bus qui va passer devant nous, Martial. On voit tous les joueurs qui sont là. Il y en a certains qui sont torse nu, carrosse tout le monde avec des bouteilles d'eau. On a vu le champagne tout à l'heure. On a vu Cameron Wauke blessé au genou hier qui a eu une immense gorgée de de Magnum. Et bon, voilà, c'est là, ça y est.
C'est le seul ombre au tableau dans la journée d'hier. J'espère que c'est pas grave pour Cameron, parce que c'est un élément essentiel dans l'équipe.
Et il est là en tout cas, il est là. Il est là, il a l'air bien. Il a l'air bien, Cameron.
Espérons qu'on va le récupérer très vite. Voilà, donc
Ça y est, Marcel, vous êtes devant le bus là. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on ressent là à ce moment-là?
Super, on va déployer les couleurs.
Ah, l'immense drapeau de Martial. Allez, poussez-vous autour parce que là, il faut le déployer. Ouais, c'est parti. Ça tournoie dans les airs. Martial, il est chaud. Et attention, il va se faire arroser par un pistolet à eau. Le voilà, le bus qui passe à l'instant juste devant nous. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les rues de Bordeaux. Encore une vingtaine de minutes de parade pour accéder à l'hôtel de ville. Ils vont finir à pied avant d'être reçus à l'hôtel de ville. Et ensuite, il y aura à nouveau un bus, mais cette fois-ci un bus pour les emmener à Chaban-Delmas, où ils vont soulever le trophée devant 33 000 personnes. Et les festivités vont continuer, m'a-t-on dit, assez tard dans la soirée.
Oh là là, ça va être une belle fête. Ça, tout ça pour se préparer pour le match de top 14 qui aura lieu dimanche prochain. Bon, j'espère qu'ils vont quand même pouvoir récupérer à temps pour être efficaces, hein, parce que ça va être très dur cette fin de championnat pour cette équipe de Bordeaux. Juste un dernier mot, Romain. Toi qui as vécu les sacres de La Rochelle il y a quelques temps et maintenant ceux de Bordeaux, où la fête est la plus belle? À La Rochelle ou à Bordeaux? Je crois qu'il n'a pas dû m'entendre. Il n'a pas entendu. Bon, on lui posera la question tout à l'heure. En attendant, vous avez compris, c'est la fête pour les joueurs bordelais qui sont donc rentrés en Gironde après une courte nuit. Ils sont rentrés en avion ce matin pour cette parade. On a vécu le match ensemble avec Wilfried Templier qui lui est de retour à Toulouse après lui, là aussi une petite nuit, mais c'est normal. Il a fini de travailler très tard. Bonjour Monsieur Templier, comment allez-vous?
Salut Christophe, j'ai l'impression que comme moi, t'as mal réglé la clim de ta chambre.
La clim a été terrible, la clim m'a tué.
Il faisait tellement chaud à Bilbao.
Ben oui, c'est ça. Bon, ça va, mon Wilfried, pas trop fatigué après ce week-end de fiesta pour le rugby français. On rappelle quand même deux affrontements franco-irlandais, deux titres pour le rugby français. On ne pouvait pas faire mieux. Hein. En plus, deux démonstrations.
Sans photo, hein, en plus. Hein, que ce soit les Montpellierains contre l'Ulster, 60 points vendredi soir en Challenge Cup ou l'UBB 41-19. La grande supériorité du rugby français est allée au grand jour. C'est voilà, faudra qu'on reparle de ça plus tard aussi des 6 titres français consécutifs dans cette Champions Cup. Mais là, il n'y avait pas meilleure équipe que l'UBB cette saison dans cette compétition.
Exactement, l'UBB qui a vraiment été impressionnant tout au long de la saison. C'est jamais facile hein, de réaliser le back-to-back, même si d'autres l'ont fait avant. On se rappelle de Toulon qui en avait même réussi 3 ou La Rochelle dernièrement. Mais là, la saison a été très compliquée pour l'UBB, avec notamment un tirage qui les a fait affronter quand même les meilleurs, notamment ce déplacement en Afrique du Sud, où la victoire finalement s'est peut-être construite là, avec cette victoire à l'extérieur. On sait qu'en Afrique du Sud, très peu d'équipes françaises sont allées s'imposer, et ce jour-là, eh ben, ils ont marqué la compétition de leur empreinte.
Mais ils ont terminé premier de tous les clubs, de toutes les poules, en fait, comme l'année dernière, et ça donne un avantage certain, hein, avec de recevoir le 8e quart et le demi, et tu l'as dit, ce premier match au Bulls, à Pretoria, gagné 46-33 avec le bonus offensif, en choisissant de déplacer ses meilleurs joueurs, son meilleur effectif, a donné le ton pour l'UBB, qui est passé sur tout le monde, parce que il y avait non seulement les Bulls, mais ils ont quand même reçu le vice-champion d'Europe, Northampton, 50-28, on le dit depuis la victoire hier, la note artistique de l'UBB, quand même, fantastique sur cette Coupe d'Europe. Il fallait gagner aussi à Bristol en dernier match de poule. Ils l'ont fait 27-15 et derrière ça a déroulé. Le Stade Toulousain est tombé à Chaban-Delmas 30-15 et on le répète aussi, Christophe, je pense que la finale c'était le match d'avant ce week-end. C'était la demi-finale face à Basse, parce qu'il a été d'une férocité, d'une intensité énorme, gagné 38-26 et là on a vu un UBB d'un niveau mais stratosphérique qui a posé sa patte sur tous ces matchs et qui a décidé d'aller chercher cette coupe, décidé de la gagner d'une manière incroyable, mais la meilleure attaque, le plus d'essais, voilà. Cette équipe aussi, Christophe, est un peu ce qu'on disait chez Stephen Brun tout à l'heure, une équipe frisson. avec des individualités incroyables, et quand elles se décident à jouer, c'est beau, il faut le dire.
Ah, c'est magnifique, mais c'est vrai que la première mi-temps d'hier, franchement, c'est à montrer dans toutes les écoles de rugby. 35-7 face au Leinster. Le Leinster, c'est l'une des plus grosses écuries du rugby européen. C'est 80% de l'équipe d'Irlande qui était sur la pelouse hier. L'Irlande qui a très peu encore remporté le Grand Chelem et qui là s'est fait laminer, mais véritablement laminer pendant 40 minutes par l'UBB qui a joué un rugby de rêve.
Et qui les a punis. Il n'y a pas eu de match. Enfin, c'est vrai que, rappelle-toi que le Leinster a ouvert le score, avec O'Brien, qui le menait 7-0, mais derrière, 5 essais de Bordeaux, et sur les temps forts irlandais, une défense de fer, en plus, et il y a de l'interception, il y a les ballons tombés, et à chaque fois, ça fait essai. Avec les jambes bordelaises, les avants, sont très forts dans cette phase finale de Coupe d'Europe, mais derrière, quand vous avez les Bielbiaré, les Jalibert, les Moefana, voilà, qui ont été monstrueux, ça va trop vite. Un peu déçu par le Leinster tout de même, qui n'a pas montré un visage des années. Ah voilà, ça remonte déjà à 4-5 ans. Hein,
où, 5 défaites de suite en finale quand même. Hein.
En finale.
C'est énorme.
Il y a des joueurs qui ont perdu 5 finales depuis.
Je sais pas si tu as croisé des supporters irlandais hier soir, mais ils étaient dépités. Hein, les pauvres, c'est terrible. Hein.
Fataliste, ouais. Ouais. Les dépités, ouais. Ah ouais, c'est cauchemar pour eux. Hein. C'est les pauvres, on a une pensée pour eux parce que c'est terrible hein, quand on est supporter, qu'on vit 5 déceptions comme ça, et les clubs français, ils sont pour quelque chose. Voilà, déçu par le Leinster, mais l'UBB était trois classes au-dessus sur ce week-end.
Ouais, trois classes au-dessus, et c'est vrai que cette UBB a montré des choses un peu irrégulières depuis le début de la saison. En Champions Cup, ils ont toujours été étincelants. Ça n'a pas été le cas non plus en top 14. Même Cameron Wauke le disait hier, on a fait une première mi-temps catastrophique la semaine dernière, et la semaine d'avant, ça n'a pas été mieux, et là ils arrivent comme ça à réciter leur rugby. Comment on peut expliquer, est-ce qu'on peut avoir des explications, est-ce qu'ils en ont donné d'ailleurs, sur leur différence de niveau quand ils jouent en top 14 ou quand ils jouent en Champions Cup?
Yannick Bou disait que ils avaient trois compétitions à jouer, le top 14, la Coupe d'Europe, mais aussi les matchs du 15 de France,
oui.
qui prennent beaucoup d'énergie, qui créent des doublons, qui amènent des blessés, et donc il a dit mes joueurs sont pas des robots, sont pas des machines, et il a dit il n'y a pas un match facile en top 14, c'est quelque chose qu'on répète depuis des mois, voire des années, donc c'est pour ça que c'est plus difficile. Et après ils mettent leur costume en Coupe d'Europe, et là comme pas magie, ils volent vraiment sur le terrain. Mais effectivement, ils sont cinquièmes avec un point d'avance sur Clermont seulement, 2 points sur le Racing et 5 points sur La Rochelle. Il reste 2 journées et Bordeaux-Bègles n'est assuré de rien. En fait, c'est incroyable. Hein, double tenant du titre en Coupe d'Europe, mais assuré de rien sur cette fin de saison de top 14.
Alors, on se dit que s'ils jouent le même rugby qu'ils ont disputé hier lors des 2 dernières journées, ils devraient passer. Mais bon, vont-ils être capables de rééditer ce genre d'exploit avec la fatigue, avec les agapes de la victoire? Et avec quelle équipe, bien sûr?
Parce que il est prévu qu'il fasse tourner, normalement, selon ce qu'on sait. On peut peut-être écouter Jefferson Poirot, bien qui sûr. Parle de cette fin de saison et de cet enjeu. On l'a rencontré hier donc en conférence de presse, le pilier, le co-capitaine de cette équipe derrière Maxime Lucu, qui parle de l'importance de la suite pour l'UBB.
Ouais, je pense que c'était important pour nous de valider cette étape. J'aurais eu du mal à imaginer l'inverse. Si on était sorti perdant de cette finale, là, j'aurais eu du mal à voir notre équipe rebondir. Mais là, on n'a plus que cette ligne droite. Ça ferait tâche de pas se qualifier. On n'a plus qu'un objectif en ligne de mire, nous, de le faire. On a l'équipe aussi pour ça. On n'a plus que cette cible et on se doit de faire, en tout cas, tout ce qui est en notre pouvoir pour entrer dans les 6. Ouais.
C'est intéressant ce qu'il dit. Si on avait perdu, pas sûr qu'on aurait pu rebondir. Mais là, effectivement, sur l'euphorie de la victoire, et puis finalement la pression qui disparaît parce que leur saison est déjà aboutie. Quand tu remportes un titre, deuxième titre de Champions Cup, maintenant c'est que du bonus ce qui peut se passer en top 14.
Ils peuvent ne pas remporter le Brennus, on leur en voudrait pas, avec c'est pas donné à tout le monde d'aller chercher un titre, ils l'ont déjà. Par contre, de pas se qualifier dans les 6, c'est vrai que ça ferait un petit peu tâche pour le pédigré de l'UBB maintenant, hein, qui est clairement le concurrent numéro 1 de Toulouse depuis de nombreux mois. Donc je pense qu'ils vont essayer de battre clairement la dernière journée, grappiller un point de bonus éventuellement à Toulon.
Il faut un point de bonus. Il faut assurer un point de bonus au moins contre Toulon. Autrement, c'est râpé, non? D'après ce que, d'après mes calculs.
Ça dépend, parce que le Racing est clairement en rencontre. Le Racing joue Toulouse à la dernière journée. Mais
voilà, ils le sauront, en tout cas,
peut en perdre un.
Ils jouent dimanche après-midi.
La Rochelle va à Montauban et jouera un stade français qui aura peut-être décidé d'assurer un match à domicile simplement. Donc, il peut se passer plein de choses. Donc,
passionnant ces dernières journées.
On a envie de les avoir, Christophe, en phase finale, UGB, pour avec tous les clubs.
Mais qui tu veux pas avoir alors du coup
Non. C'est vrai que les autres supporters te diront ça, c'est vrai. Mais non, mais avec ce qu'on a vu hier, avec les joueurs qu'ils ont, ils ont beaucoup de joueurs d'équipe de France, des stars, des étincelles de partout, voilà. Après, il y aura fort à faire pour eux, avec Toulouse, évidemment encore, avec Pau, le Stade Français, avec Montpellier aussi. Attention à Montpellier, dans cette fin de saison.
On va en parler dans un instant de Montpellier, puisqu'on va recevoir Baptiste Ardossio, le pilier gauche de cette formation du MHR, qui elle aussi a été impressionnante. C'était vendredi soir face à l'Ulster, une autre province irlandaise qui n'a vraiment pas fait le poids face à cette équipe de Montpellier qui se présente un peu comme l'épouvantail de cette fin de saison. Elle qui est pour l'instant deuxième et assurée jusqu'à maintenant de disputer les demi-finales directes. Un mot donc de la suite du programme pour Bordeaux. Quelques jours de récupération. Tu disais qu'a priori, ils allaient faire tourner la semaine prochaine. Tourner, je pense que quand même, il va mettre du beau linge sur le banc, prêt à rentrer s'il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose, non ?
Je ne sais, c'était pas la tendance.
C'était pas la tendance, d'accord.
Les bonnes informations. Ouais. C'était pas la tendance avant la finale. Il faut faire l'état des lieux des troupes, évidemment. Même si on le disait pendant la retransmission, c'était une finale de Coupe d'Europe, c'est très énergivore, ça laisse des traces. Mais on a senti la gestion en deuxième mi-temps des Bordelais, tenter les pénalités, gagner du temps comme ça. Le rythme n'était plus le même.
Je ne sais pas si la gestion a été plus
difficile.
Est-ce que la gestion a été identique dans la soirée? Ça, je suis pas sûr.
Bah, t'es bien placé, non?
J'ai passé une partie de la soirée avec eux. Ils étaient en grande forme.
Ah, ouais, d'accord. La gestion n'était pas franc.
On ne va pas leur reprocher.
C'est normal, il le faut. Non mais ces mecs trippent tellement pendant des mois, il faut qu'à un moment lâcher un peu ça. Denis nous disait qu'ils avaient fait 4 jours complets de fête l'année dernière. Je suis pas sûr qu'ils fassent la même chose cette année. Après ce soir, ça s'arrêtera peut-être parce que c'est pas possible sinon.
On arrête le top 14, mais c'est pas possible.
S'ils veulent aller au bout du top 14 et ils ont été au bout de la Coupe d'Europe, ça fait 15 week-ends où ils sont sur le pont. Il y aura 4 matchs. S'il fait tourner à Toulon, il y aura 4 matchs derrière pour aller chercher un bouclier de prix. C'est pas possible. Ouais. Il faut y penser quoi. Yannick Bru disait en conférence de presse, je leur ai dit c'est à vous de gérer, mais pensez à la suite. Et président Marty a dit il a fait un bide, tout le monde a rigolé. Donc voilà. Bon, on verra. Les joueurs décideront de Bordeaux.
Exactement. Très bien. Tu restes avec moi, Wilfried. On va accueillir dans un instant Baptiste Ardossio, donc le pilier de Montpellier, qui là aussi a réalisé une sacrée partie, ainsi que toute la formation du MHR. Petit détour par Roland Garros, Eric Salio, Florent Serra, pour avoir des nouvelles, notamment de Benjamin Bonzi. Est-ce que ça s'est un peu arrangé pour lui face à Zverev?
Non, clairement non. Pas. 2-7-0 pour Sacha Zverev, 6-3, 6-4 et Flo en plus. Break d'entrée de troisième manche pour l'Allemand, donc Benjamin Bonzi n'arrive pas à trouver des solutions.
Non, il y a beaucoup de fautes en plus et on sent que Zverev, ça lui donne confiance si tu veux quand il voit son adversaire un petit peu fébrile qui a raté 2-3 volées également faciles. Et on sent pas que Benjamin a les armes pour l'inquiéter. En plus, il varie beaucoup Zverev, utilise énormément l'amorti. Et c'est très compliqué pour Benjamin qui en plus lui donne entre guillemets pas mal de points.
Et ça va pas mieux sur le court Simon Mathieu puisque Jakub Mencik, le Tchèque, mène 6-3 face à Titouan Drogué et il a déjà le break dans le deuxième.
Bon, ça va pas être un grand dimanche pour les chances.
Pas la grimace.
À tout à l'heure, 15h43. Petit détour par le vélo, le Giro, avec l'arrivée de la 15e étape tout à l'heure du côté de Milan. On a vu tout à l'heure une bataille entre Magnier et Narvaez pour le maillot cyclamen. Ça sera sans doute tout à l'heure la même chose, même si Narvaez aura du mal quand même à se mesurer à Magnier, qui on l'espère pourra rattraper l'échappée et aller chercher une victoire, Morgane.
Oui, une échappée de 4 hommes, Christophe. C'est le deuxième coup qui a été le bon dans cette étape. étape entre Voghera et Milan, étape de 157 km, encore 73 km à parcourir. On arrive dans Milan où les coureurs vont s'élancer quatre fois autour d'un parcours de 16 km. Les quatre hommes à l'avant, il y a deux hommes de la Poti, Visite Malta, Mattia Baïs pour sa septième échappée dans ce Giro, et Alessandro Tonelli, le mieux placé au général, à plus d'une heure 28 de Jonas Vingegaard. Et les deux autres garçons qui les accompagnent sont Martin Marcellucci pour la Bardiani et le Norvégien Fredrik Vernes pour l'équipe UnoX. Paul Magnier, qui a pris un point tout à l'heure dans le sprint intermédiaire avec cette cinquième position, est à égalité avec Jonathan Narvaez. Tous les deux comptent 131 points, mais ça va se décider dans le sprint final tout à l'heure, dans 73 km dans Milan. Christophe, là, aucun doute, Magnier fera mieux que Narvaez normalement, mais on surveillera Jonathan Milan pour adversaire principal du Français. Peut-être Milan qui va gagner à Milan, et pourquoi pas Dylan Groenewegen de l'équipe Unibet Rose, qui a un énorme train avec lui. Encore 71 km dans cette étape, 4 hommes à l'avant, 3 Italiens et un Danois, et le peloton est à 1 minute 59.
Voilà, et tout le monde vient d'entrer sur le circuit de cette arrivée, la 15e étape dans Milan. 15h45, on continue dans un instant. On accueille Baptiste Ardossio, le pilier gauche du MHR, champion d'Europe, enfin vainqueur de la Challenge Cup. C'était vendredi soir, à tout de suite.
MC Intégral Sport, Christophe Cécile.
15h47 sur RMC, c'est l'Intégral Sport cet après-midi. On est en direct de Roland-Garros. On vit également l'étape du Giro et on fête les victoires des clubs français dans les compétitions européennes, plus qu'européennes, hein, puisqu'il y a aussi des provinces sud-africaines, que ce soit en Champions Cup et en Challenge Cup. On a évoqué avec Wilfried il y a quelques instants le triomphe de l'UBB hier. On va maintenant parler d'un autre triomphe qui a été tout aussi impressionnant, celui du MHR Montpellier.
Un triomphe record.
Pardon ?
Un triomphe record.
Triomphe record, exactement. 59 points inscrits contre 14 encaissés face à la province de l'Ulster. Et on en parle avec notre invité, Baptiste Ardossio, qui était un peu chez lui à Bilbao, évidemment, dans la cathédrale du Pays Basque, puisqu'il est originaire du Pays Basque. Bonjour Baptiste.
Bonjour tout le monde.
Bon, j'imagine ça devait être sympa de vivre ce triomphe, toi le Basque, dans cet endroit qui, pour les Basques, est quand même un endroit presque mythique, presque sacré, non ?
Ah oui, c'est l'un des plus beaux stades d'Europe, si ce n'est le plus beau. Donc oui, c'était très impressionnant et très, très savoureux de jouer et d'autant plus gagner là-bas.
Ouais. Et je crois que tous les joueurs basques des deux équipes, que ce soit Montpellier ou Bordeaux, vous vous êtes vu remettre un maillot de l'Athletic Bilbao, c'est ça ?
Exactement. On a été surpris, une belle surprise, parce que arrivé à l'hôtel, on nous attendait avec Yon et on a reçu ce magnifique présent et c'était très touchant et ça fait plaisir de se sentir soutenu et de voir que il y a pas mal de Basques qui arrivent à jouer des finales, donc c'est sympa, c'était un joli clin d'œil.
Il n'y a pas encore beaucoup de Basques espagnols, hein, malheureusement. Il n'y en a pas des masses, Baptiste, encore. Des Basques espagnols, hein.
Non, mais c'est pareil, le Pays Basque, c'est la France et l'Espagne, donc il n'y a aucun problème.
D'accord. Il n'y a pas de frontières. On a bien compris. Bon, on a vu, on en parlait avec Wilfried hier, le tour d'honneur de Maxime Lucu avec le maillot de l'Athletic Bilbao sur la tête hier, c'était génial. Hein.
C'était magnifique. Hein.
Tu l'as vu, Baptiste, tu as regardé le match.
On a regardé le match et même très, très content pour Max aussi, qu'il puisse soulever ce titre devant sa famille et ses proches. Je pense qu'il était tout aussi ému que moi et je suis très très content pour lui.
Et vous avez évolué ensemble à Biarritz ?
Bah, on a un peu de différence d'âge, mais quand j'étais en espoir, lui était sur ses dernières années à Biarritz. Donc moi je le regardais un peu comme un enfant, parce qu'il a quand même sauvé aussi à une époque Biarritz. Et voilà, et ce qu'il a fait pour le BO aussi, c'est incroyable. Et ce qu'il fait pour l'UBB, les d'autant plus. Donc franchement, chapeau à lui et je suis très 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 heureux pour lui.
Wilfried ?
Ça s'entend, Christophe, que Baptiste, il est basque. Hein.
Ah, il y a un petit accent. Normal, c'est important. Non,
je voudrais demander à Baptiste comment il a vécu ce titre. Et on parle beaucoup des avants de Montpellier. Alors, vous êtes une équipe, mais des avants de Montpellier, ça commence à bruisser un peu quand même, hein, votre réputation. Son sentiment sur ce titre personnel, et comment il voit ça, d'évoluer avec un pack comme ça à ses côtés, le plaisir que ça doit être.
Mais c'est vrai que c'est super. Après, bon, sur le match, on a pu montrer un peu notre palette, ou sur les molles, mêlées, on a été dominant. Après, les trois quarts aussi ont fait un super match. À l'image d'essai de Novan, tout ça, ils ont marqué des jolis essais derrière. Mais non, c'est vrai que depuis le début de la saison, devant, on fait une belle partie, on fait une belle saison. Donc oui, on est satisfait. Après, voilà, on a gagné ce week-end, mais il reste encore un match très important la semaine prochaine, puis la semaine d'après pour essayer de faire quelque chose dans ce championnat.
C'est message de Johan Codulo, ça, Baptiste.
Ouais, c'est notre.
La fête n'a pas trop duré, Baptiste.
Ben, on l'a fêté, parce qu'un titre, ça se fête. Moi, par exemple, c'était mon premier, donc j'avais pas envie non plus de galvauder ça, mais on est un peu sur la retenue, parce que c'est vrai que ouais. Le match de la semaine prochaine est primordial pour nous, et voilà, donc on l'a fêté tranquillement avec quelques bières, quelques Ricards, et après on est parti se reposer.
Et vous êtes rentré à Montpellier hier
hier.
Ouais, d'accord. Bon.
Et oui, parce qu'il y a un gros match, Christophe.
Et oui, face à Pau.
Prochain à Montpellier, section paloise.
Ouais, ouais, pour, ouais. Pour un Basque affronter Pau.
Contre les Béarnais.
C'est important.
C'est ça, c'est ça.
Ça non, mais vous avez la deuxième place dans le viseur, Baptiste, là. Parce que Johan Codulo est très prudent, mais sans se cacher, vous pouvez l'affirmer quand même, non? Parce que c'est très important d'avoir.
Mais écoutez, on m'a pas dit de dire ou pas dire, mais c'est vrai que en tant que joueur, quand on est compétiteur, on se veut d'aller donner le meilleur de nous. Et là, ce week-end, on a la chance de pouvoir un peu plus s'installer dans cette seconde place, même s'il y a le Stade Français aussi qui est juste derrière. Mais en gagnant ce match, on se donne le droit de rêver encore. Donc bien sûr qu'on veut finir second cette année.
Wilfried, c'est vrai qu'en discutant avec tous les journalistes, tous les confrères au long du week-end, tout le monde aujourd'hui fait de Montpellier l'outsider numéro 1.
Ouais, l'épouvantail un petit peu.
L'épouvantail. Ouais. Évidemment, Toulouse reste favori pour le titre, mais Montpellier a vraiment marqué les esprits depuis quelques semaines.
Hein. Ouais, Montpellier, avec ses leaders, avec des joueurs vraiment impactants, comme Mouelessé, Vounipola, Baptiste, hein, je vais te citer. non, mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup à la fois de l'expérience, de la jeunesse, des paris, de la vitesse, et Montpellier a changé un petit peu, a ajouté des choses à son jeu, parce qu'on parle beaucoup des avants, une mêlée surpuissante, avec des piliers de la rotation qui est très fort, grosse défense, évidemment, défense étouffante. Et c'est vrai que ça chuchote un peu en disant, oulala, attention, Montpellier, ils seront pas bons à prendre. Donc, s'il y a en plus un week-end de repos pour aller directement à Marseille en demi-finale, voilà, Baptiste, est-ce qu'on rêve de bouclier quand les trophées appellent l'envie d'autres trophées? Est-ce qu'on rêve de bouclier?
Ben même si on n'avait pas gagné ce week-end, moi depuis jeune, je rêve de gagner des titres, et voilà, donc le Brennus, c'est quand même le Graal pour un rugbyman, et je pense que tous les joueurs en top 14 veulent le remporter, donc bien sûr que c'est dans la tête. Après voilà, on connaît la difficulté de ce championnat, on sait qu'il y a le Stade Toulousain, qu'il y a Section, qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent remporter, donc ça va être une grosse bataille, mais on y croit, on va tout faire pour y arriver.
Ben, on compte sur vous évidemment pour perturber les équipes qui sont considérées comme les favorites. Hein. C'est vrai qu'on a vu Bordeaux hier, qui là aussi montre de belles choses.
Il faut pas oublier Toulouse.
Et il faut pas, évidemment, on va pas oublier Toulouse. Il reste les favoris numéro un pour succéder à eux-mêmes, parce que c'est une équipe fantastique et qui en plus sait hausser son niveau de jeu lorsque ça compte. Cette victoire en Challenge Cup, Baptiste, c'est vrai que de temps en temps on a tendance un peu à négliger cette compétition qui est un peu sous la domination de la Champions Cup, mais pour un club comme Montpellier, c'est important. C'est la troisième fois que Montpellier remporte ce trophée. Vous êtes vraiment très attaché à cette compétition.
Mais c'est en début d'année, c'est vrai que c'était pas l'objectif numéro un de la remporter quand on avait fait les objectifs de la saison. Puis après, au fil des matchs, au fil des rencontres, c'est vrai que on s'était dit, mais pourquoi pas. Pourquoi pas aller chercher quelque chose, et c'est vrai qu'il y a eu déjà deux succès dans cette compétition, et là une troisième, surtout ça va aussi nous ouvrir les portes aussi pour une Champions Cup la saison prochaine, donc ouais, c'était super plaisant de pouvoir la jouer et la remporter, surtout en plus à Bilbao là-bas, quand on avait vu les finales, moi je m'étais dit, bien, si on la joue pas, j'aurai les boules, parce qu'il y aura la famille, tout ça qui vont venir, donc moi dans ma tête j'avais envie qu'on y aille quand même, et on l'a fait, donc je suis très très content.
Magnifique. Wilfried, la dernière
Baptiste,
question
tu as connu ouais, ta première sélection à l'automne dernier, il a fallu aussi digérer ça pour toi, les mois suivants, hein, ça se fait pas comme ça, est-ce que voilà, tu gardes ça dans le coin de ta tête, on est une grosse année de la Coupe du Monde, que tu travailles pour ça avec bien sûr voilà, au-dessus de ça cet objectif pour toi?
Mais quand je suis revenu après le match de l'Afrique du Sud, j'avais pris un petit pépin au genou, et après le Joe et le staff avaient estimé que j'avais un peu de retard dû à la non prépa physique que j'avais fait l'été comme j'étais en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, j'en ai un peu bavé pendant 4-5 mois là où j'ai mangé mon pain noir, j'essaie de m'envoyer plus, de voilà, faire plus de physique. Là, je me sens beaucoup mieux. Voilà, il reste 4 matchs, ou on va dire, j'espère 4 matchs encore en top 14. Et après, bien sûr, l'année prochaine, il y a Coupe du Monde, mais il y a déjà un rassemblement cet été. Avant de passer à la Coupe du Monde, moi, j'ai envie d'être le plus performant possible pour que Fabien puisse, pourquoi pas, me regarder. Voilà, j'ai juste ça que j'ai en tête. Après, voilà, je veux pas non plus me faire des plans sur la comète.
Merci Baptiste, bravo pour cette belle victoire, bravo pour cette Merci. Saison qui n'est pas terminée, loin de là, avec notamment ce match qui vous attend, ce sera samedi prochain à 21h15 face à Pau, match capital évidemment en vue de la qualification directe pour les demi-finales. Merci Baptiste Ardossio.
Merci
pas,
à vous.
Pas trop
merci
de fiesta beaucoup. Cette semaine, hein, vous aurez le temps
non,
de
non,
faire.
Non, ça va aller, ça va aller.
Les gens prennent la glace.
Allez, merci.
Merci Baptiste.
Merci Baptiste.
Merci Will.
Ouais. On peut saluer, puisqu'on avait Baptiste Ardossio, on va saluer Julien Landry, qui est voilà, c'est le chouchou de Julien Landry, Baptiste Ardossio. Julien Landry,
il a fait toute la route entre les poteaux.
Il a fait toute la route depuis Bilbao jusqu'à Montpellier avec RMC, donc avec les, on salue le Julien, les cours de Midi Libre qui voilà, qu'on pas manquer une miette de tout ce qu'on a dit sur le bébé depuis ce matin.
Très bien, c'est parfait. Exactement. Merci Will, va te reposer, va améliorer ta voix, hein, parce que demain on a besoin de toi.
Je travaille le réglage de la.
Oui, mais moi aussi, c'est pareil. On va régler tout ça et puis on revient demain en pleine forme.
Je t'enverrai des conseils.
Allez, à demain pour Entre les poteaux. Ciao. N'oubliez pas Entre les poteaux, vous pourrez télécharger demain aux alentours de 17h. On va revenir évidemment sur les succès français de ce week-end. Un petit détour par Roland Garros, Bonzi dans la troisième manche, il a perdu les deux premières face à Zverev et ça se présente mal cette troisième manche, Eric.
Ouais, il est largement distancé dans la troisième manche, Benjamin Bonzi. Il y aura pas de miracle en principe, hein. 6-3, 6-4 et 4 jeux à 1 pour Sacha Zverev qui, je pense, s'attendait à une autre résistance de la part du Nîmois. Mais voilà, c'est un très bon tour de chauffe pour Zverev. En plus, comme il joue le dimanche, son prochain tour ce sera mercredi, hein, Flo. Très très bonne opération pour l'Allemand.
Ouais, il fait un premier tour assez solide. En plus, il est en train de se lâcher un petit peu sur certaines frappes parce qu'il voit qu'il a beaucoup d'avance. Après, Benjamin s'accroche jusqu'au bout. Après, comme dit Eric, quand tu pars de loin comme ça face à un joueur comme Zverev, il y a pas de miracle, hein. Il y en a eu un petit pour Darderi à Rome, mais là en grand chelem sur 5-7, ça va être très compliqué. Il aura un deuxième tour probablement pas évident face à Thomas Maric. C'est un beau premier tour pour Zverev si il s'en sort en 3-7, parce qu'après on sait jamais ce qui peut arriver.
Bien sûr.
Mais on voit pas trop les armes qu'a Benjamin là. On voit que Benjamin joue un peu le tout pour le tout en tentant, mais c'est trop irrégulier.
Et sur le cours Simone Mathieu, situation très compliquée aussi pour Tito Androguet qui a une wildcard, qui est 110e mondial, qui frappe à la porte du top 100. Mais ça risque d'être juste aujourd'hui puisqu'il est mené 6-3, 6-2 par le Tchèque Mensik.
Très bien, merci les garçons, à tout à l'heure. Il est 15h59, on revient dans un instant les infos et ensuite on va parler de Formule 1 avec le king de la Formule 1, Jean-Luc Roy, qui nous rejoint pour évoquer le Grand Prix du Canada dont le départ sera donné ce soir. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
16h04, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport. On suit le tennis, on suit le vélo avec l'arrivée de la 15e étape. On est encore à 54 km de l'arrivée. Le peloton est dans les rues de Milan. Je ne sais pas si Morgane est avec nous pour faire un petit point de cette course. Il y a beaucoup de monde dans les rues de Milan aujourd'hui, Morgane, pour suivre cette étape.
Oui, beaucoup de monde dans les rues de Milan et gros soleil, aussi grosse chaleur. Mais le peloton et les échappés ne ménagent pas leur peine, Christophe, parce qu'on roule à plus de 50 km/h depuis le début de cette étape. Il y a environ environ 2 heures. Encore 54 kilomètres à parcourir. On est sur le premier des 4 tours de circuit dans cette ville de Milan. À l'avant, toujours ces 4 hommes qui étaient le deuxième coup de la journée. 2 hommes de la Polti Visite Malta, Mattia Baïs et Alessandro Tonelli. Un homme de la Bardiani, Martin Marcelluzzi. Et le Norvégien, Fredrik Vernes. Ils ont 2 minutes et 3 secondes d'avance sur le peloton. Ça a pratiquement été le même écart depuis que l'écart s'est stabilisé. Ça fait très longtemps qu'on tourne autour des 2 minutes. Il faut s'attendre à ce que l'équipe, par exemple, de Paul Magnier, la Quick Step, passe à l'action, par exemple, pour revenir sur ces hommes dans quelques minutes, Christophe.
Merci Morgane. Ce générique, vous l'entendez, c'est celui qui vous dit qu'il faut vous inscrire maintenant à notre jeu pour tenter de remporter 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde. Pack qui comprend un vidéoprojecteur, le maillot de l'équipe de France, le ballon officiel de la Coupe du Monde et une boîte Lego du trophée. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Envoyez donc dès maintenant liste L-I-S-T-E au 7-32-16, liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes, pas une de plus pour vous inscrire. Bonne chance à tous. 16h06, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport. Je reçois, j'accueille. Oh, il est bronzé comme une vieille américaine, il est magnifique. C'est notre ami Jean-Luc Roy, The King de Formule 1. Comment ça va, mon Jean-Luc?
Mais ça va formidablement bien, mon
passage dans nos studios.
De passage à Cajar, comme aurait dit Coluche.
Voilà, je pensais que tu serais au Canada, donc tu as
je suis là, mais je suis ravi d'être là avec vous, surtout qu'il fait un temps floridien. Donc
il
c'est
fait
formidable.
Un temps floridien.
Ah oui, là, tout à fait.
Alors, en revanche, ce ne sera pas le cas tout à l'heure au Canada.
Non,
a priori.
Et c'est une très bonne nouvelle.
Ah oui,
tu sais que j'ai fait la danse de la pluie à Miami, mais ça n'a pas marché.
T'es comme Cyril Guimard, t'es un mec sadique. Ah. T'es un mec sadique.
Non.
Tu te lèves le matin, les jours de course, quand tu ouvres tes rideaux et que tu vois qu'il pleut ou qu'il y a du vent, tu es ravi, en fait.
Écoute, à Miami, ça n'a pas fonctionné puisque tous les orages sont passés, mais à côté du circuit. Alors chez moi, il pleuvait, mais au circuit, il pleuvait pas. Ah ouais. C'était incroyable.
Alors
ça fait le tour.
Combien du circuit?
Oh, je suis à une vingtaine de kilomètres. Ah ouais, non, c'est en droite ligne. Non, mais écoute, ça a été effectivement un miracle pour les pilotes, parce que tu sais que les pneus Pirelli, on va en parler tout de suite, ceux qui les ont testés, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont émis quelques réserves. Ils n'ont pas été très nombreux. Ferrari a fait des
essais. Il n'y a pas eu encore de Grand Prix
sous la pluie. Tu sais que les pneus sont renouvelés pratiquement chaque année. Et là, il y a des inquiétudes, mais vraiment formelles, y compris de la part de Pirelli. En plus, c'est un circuit à très faible adhérence, parce que ce circuit sur l'île Notre-Dame, comme je te l'ai fait à chaque fois, et bien, l'île artificielle qui a été créé donc au milieu du fleuve Saint-Laurent. Tu sais, c'était pour l'exposition universelle de 1967. Je te l'ai fait à chaque fois aussi. Puis il y a eu les JO, bien sûr, après.
Bien sûr,
puisqu'il y a juste au milieu du circuit, il y a le bassin qui servait pour l'aviron, etc. Bon, on le voit toujours. Et puis les marmottes. Il y a les marmottes qui traversent, malheureusement.
Ah, les jours de la marmotte,
il y en a toujours une ou deux qui se fait attraper, malheureusement. Ah, là, c'était Albon cette fois-ci. L'an dernier, c'était Hamilton. Et puis il y a eu Grosjean.
Ils ont chacun eu leur marmotte.
Il y a eu des marmottes.
C'est pas très sympa. Ça doit pas plaire aux écolos, tes amis.
Non. Mais bon, c'est les pauvres marmottes. Là, après, elles se planquent un peu. Elles ont compris. Mais le premier jour, elles sont un peu surprises.
Tu leur mets des Formule 1 d'un seul coup. Même si elles font moins de bruit qu'avant, ces Formule 1. Mais quand même.
Mais elles vont aussi vite.
Alors, on va donc assister à une course qui débutera tout à l'heure à 22h, heure de Paris. C'est ça.
C'est ça.
Avec deux premières lignes. Les Mercedes en première ligne. Les McLaren en deuxième ligne.
Bien
et ensuite, Ferrari et Red Bull qui se partagent le reste.
C'est ça.
Les Papaya se rapproche petit à petit des Mercedes, même si celle-ci reste pour le moment dominatrice. Mais il y a anguille, il y a problème chez Mercedes. Les flèches d'argent risquent de se rentrer dedans. ça a été déjà chaud lors du Grand Prix Sprint.
Absolument, la trajectoire des flèches, parfois, tu vois, se côtoie, se touche. Alors après, on a visionné. Bon, ce qui s'est passé en deux mots, c'est à la mort du sixième tour, puisque Russell avait fait la pole, Antonelli était à côté. Russell est parvenu à rester devant. Il a sorti les coudes, mais ça a été. Et puis le petit Kimi, il en a du courage et de l'audace. Et là, il a tenté une attaque pratiquement incroyable. C'est-à-dire, on peut dire il y a une légère courbe, tu sais, après le départ, puis après, il y a un gauche très marqué, puis un droite. Il était à l'extérieur du gauche, alors pas vraiment encore au niveau tout à fait de Russell. Russell, lui, était évidemment à la limite. Donc, il y a eu un léger contact entre les deux, ce qui a fait que Kimi Antonelli s'est retrouvé dans le gazon. Il a traversé, il a pris la tête très fugitivement, puisque Russell l'a repris derrière. Et après, il était vert de rage. Et donc, à la radio, il n'a pas arrêté de râler en disant, oui, c'est honteux, il m'a tapé, il m'a foutu dehors, etc. Et Toto Wolff a dû prendre le micro en disant, tu te calmes, on en parlera entre nous après, etc. Alors, on a repassé ça, alors maintenant on nous dit que tout va bien. Oui,
ouais.
Mon œil, tu te rappelles de la saison 2016
C'est Rosberg, Hamilton, le remake.
C'est super pour nous, c'est super.
Oui, mais en revanche, pour Toto Wolff, je pense qu'il avait vécu un peu difficilement quand même.
Il va avoir un peu plus de cheveux blancs, à mon avis.
mais c'est vrai qu'on s'y attendait quand même. L'année dernière, on avait été frustrés parce que finalement, cette bagarre entre les deux McLaren.
Bah, on l'a pas eu, puisqu'on avait tapé sur la tête de Piastri.
Ça sentait là aussi le soufre, mais on n'avait pas eu la bagarre. Mais là, chez Mercedes, est-ce qu'ils vont leur laisser un peu plus de liberté?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que même si on sait que Kimi est le favori, évidemment, je dis toujours le fils adoptif de Toto Wolff, parce que c'est vraiment ça, hein. Il l'a choisi tout petit, il avait 12, 13 ans et il en a fait un pilote de Formule 1 et ô combien talentueux, puisque je rappelle toujours, pour bien qu'on comprenne, les trois pôles qu'il a signés, là, d'affilée, plus les trois victoires, personne ne l'avait jamais fait. Ni Ayrton Senna. Et
alors qu'il a 19 ans,
le gamin. Il est arrivé à 18 ans en Formule 1 et il avait même eu une dérogation pour participer, rappelle-toi, à la première séance d'essai libre. Il avait 18 ans depuis quelques jours à Monza.
Il n'avait pas encore son permis.
Non, mais il n'avait pas le permis. Voilà, c'est ça. Mais il avait 18 ans et quelques jours et il s'était sorti au bout de 5 tours parce qu'évidemment, il était en tête des temps au bout de 5 tours. Mais ça, tu sais, tout le monde est le plus rapide jusqu'au premier virage. Après.
Mais Jean-Luc, on continue d'évoquer la Formule 1, mais il y a une balle de match pour Zverev face à Bonzi à Roland-Garros, Eric Florent.
Absolument. 6-3, 6-4, 5-2 et avantage Zverev sur sa mise en jeu. Donc la situation de Benjamin Bonzi est très critique. On ne voit pas comment il va s'en sortir. Sacha Zverev, donc, il va disputer une deuxième balle de service sous le chaud soleil du central de Roland-Garros. Oh là là, il boit son retour. Bah, très mauvais match de Benjamin Bonzi, il faut dire les choses. Et donc élimination du Nîmois en 3 petits sets en seulement 2h08. Donc là, ça fait 0 sur 4, Christophe. On est en train de tenir les comptes à jour. Et on commence à être inquiet parce qu'on se demande si on va pas faire Funny paye son pot.
Il y en a combien
encore? Mais si on est à 0 là sur 12 ce soir, c'est.
Ah oui, 0 sur 12, oui, ça ferait des ordres quand même. Hein, là,
mais tu sais que c'est pas. C'est tout à fait possible.
D'accord, ok. Vous nous rassurez.
Ah oui, non, mais je suis pas de très bonne humeur depuis 24 heures.
On se demande pourquoi, Eric, depuis le forfait de...
Pourquoi
s'appelle-t-il
depuis le forfait d'Arthur Pie. Elle joue quand, Loïs Boisson, pour nous remonter le moral?
Mardi. Ah bah, on se demande si ce ne sera pas la Night Session, tu vois.
Un match féminin en Night Session, incroyable.
Ah, pourquoi pas?
Ah ben ça y est.
C'est une belle affiche, non?
On franchit le pas du côté de Roland-Garros.
Comme ça ferait taire. Les confrères britanniques ont été très agressifs l'an dernier envers Amélie Mauresmo, si vous avez vu l'excellent documentaire Entre les lignes.
Ouais. Mmh. Enfin. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Allez, à tout à l'heure, les garçons. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de Roland-Garros. Et on repart à Bordeaux parce que ça y est, les joueurs de l'UBB arrivent devant l'hôtel de ville, devant les yeux extasiés de Romain Asselin, évidemment, qui vit ce moment avec bonheur.
C'est le roi du timing, hein, mon Christophe. Ils arrivent à l'instant avec Damien Penaud, tu viens de taper dans les mains de tout le monde à l'arrivée à l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de monde.
On n'entend pas du tout Romain, mais on entend l'ambiance, hein, donc c'est important quand même. On sent qu'il y a beaucoup d'ambiance et que toute la ville de Bordeaux est réunie devant l'hôtel de ville pour fêter ses héros. Hein. On rappelle que cette équipe de Bordeaux rassemble plus de 30 000 spectateurs à chaque match en top 14 à Chalon-Delmas. C'est un vrai phénomène dans cette ville qui a été marquée évidemment par la chute des Girondins de Bordeaux. Et bien tous les sportifs de la ville se sont retournés vers l'UBB qui marque les esprits et qui bénéficie d'une image vraiment très sympathique, ce club qui a donc remporté une deuxième Champions Cup hier. On essaiera de retrouver Romain tout à l'heure. Pour l'instant, on ne l'entend pas, mais on entend, vous l'entendez derrière moi, la belle ambiance du côté de l'hôtel de ville de Bordeaux. 16h14, y aura-t-il la même ambiance tout à l'heure à Montréal sur le circuit
Gilles Villeneuve, qui s'était imposé pour le premier Grand Prix du Canada sur ce tracé-là en 1978.
D'accord.
Et donc,
tu y étais?
Je n'y étais pas, malheureusement, mais je l'ai suivi, bien sûr.
1978,
hein,
ça ne nous rajeunit pas.
Non.
Alors, donc on a dit, la bagarre va sans doute faire rage entre les deux.
Oui. Hein, oui, je pense qu'on peut s'attendre à quelques belles manches. Déjà.
Russell, jusqu'à présent, il s'était laissé faire un peu. Enfin, il n'était pas laissé faire, mais bon.
Il avait quand même remporté le premier, tu te rappelles, la pole et premier Grand Prix.
Mais les deux derniers.
Après, la série magique, vraiment, de Kimi Antonelli, qui était sur un nuage. Bon. Il avait expliqué, Georges Russell, que le circuit de Miami ne lui convenait pas pour diverses raisons, ne convenait pas à son pilotage, il n'avait pas trouvé les réglages, il n'était pas à l'aise. En revanche, là, il l'a emporté l'an dernier, il faut le rappeler. Alors, juste un petit chiffre, là, je me suis plongé dans mes archives, comme toujours, et depuis 2005, je me suis arrêté là quand même, à 11 reprises, le pilote vainqueur partait de la pole. Donc, 11 depuis 1, mais 8 fois...
On rappelle, c'est un circuit en ville. Un peu hybride.
C'est exactement ça. Là, pour le coup, c'est vraiment hybride parce que c'est pas la ville traditionnelle puisque c'est une île, on le rappelle, et sur cette île, il n'y a pas d'habitation. En l'occurrence, il y a des distractions, il y a un casino, il y a tout ce que tu veux, il y a de la verdure surtout. Mais en fait, il y a des murs. Il y a le fameux mur des champions. Tu sais, juste la chicane juste avant les stands que de multiples champions du monde, je ne vais pas te faire la liste, mais presque tous, sont venus embrasser. Voilà, violemment. Et d'ailleurs, Hamilton l'a léché, c'est le cas de le dire, lors d'un des passage. Donc voilà, c'est une chicane très rapide qui détermine la ligne droite des stands et donc c'est là qu'on fait un temps aussi. Non, c'est un circuit attachant parce qu'un circuit à l'ancienne où tu as très peu d'appui sur les monoplaces parce qu'il faut aller très vite dans les lignes droites et puis c'est un circuit qui, pour nous Français, fait un peu mal. C'est là que Jean-Pierre Jabouille s'était fracassé les deux jambes à l'époque et ça avait mis fin à sa carrière de pilote de Formule 1 et c'est là également qu'Olivier Panis, et là j'y étais, j'étais très proche de lui, s'était fracassé les deux jambes aussi avec la Prost, tu sais, alors qu'il était parti, il a fait un début de saison absolument formidable. C'est un circuit qui est exigeant. Bon, depuis, les monoplaces ont progressé, on le sait bien. Heureusement, elles résistent beaucoup mieux au choc. Mais c'est un circuit où il est facile de faire une faute. Voilà, parce que les murs ne sont jamais très loin. Et puis, comme l'adhérence est précaire, tu vois, et surtout là, avec la pluie, alors là, ça va être une découverte.
Parce que le grip, enfin, la pluie a enlevé tout le grip.
Complètement. Puis, il y a peu de courses parce que c'est le seul week-end automobile de l'année, si tu veux. Il n'y a pas d'autres épreuves. Donc, c'est pas chargé en gomme, tu vois. Donc là, c'est vraiment adhérence minimale. Donc, il faut être sévèrement burné, si tu vois ce que je veux dire.
Alors, les Mercedes seront les favorites, mais derrière, la concurrence peut-être est en train de se rapprocher, on l'espère évidemment, espère que ça, avec les McLaren qui avaient brillé la saison dernière, qui ont eu du mal en début de saison, mais qui là semblent revenir dans le game.
Bah, tu parlais des grilles, donc première ligne entièrement Mercedes, on le rappelle, hein, Russell, Antonelli, c'était le cas pour la sprint. Ouais, c'était pareil. Mm-hmm. Deuxième ligne, entièrement Papaya, c'est-à-dire les McLaren avec Norris et Piastri. Deuxième ligne avec Norris et Piastri en sprint. Et c'est la troisième où ça diffère un peu. On a la Ferrari d'Hamilton, là on l'a aussi, mais c'est Max Verstappen qui est sixième et non pas Charles Leclerc.
Donc Hamilton et Verstappen sont la même ligne aussi, c'est bien
Oui, ça c'est pas mal. Hein. Ça va nous mettre une belle ambiance, là, moi, à mon avis. Le petit escargot, tu sais, après justement le gauche-droite dont je parlais, je pense qu'il va falloir avoir les yeux partout parce que ça va être chaud.
Et
chaud
puis la ligne d'après, il y a un Français et un Monégasque.
Eh bah oui, bah c'est pas mal c'est non plus. On a Isaac Hadjar, effectivement, avec la deuxième Red Bull, qui là n'est pas loin de Verstappen et c'est plutôt rassurant parce que tu sais à Miami il était un peu loin et moi j'étais un peu inquiet. Là ça va, il a remis les compteurs à zéro, il a été bien tout le temps. Et puis Charles Leclerc, alors qui lui a dit c'est mon pire week-end depuis très longtemps. Alors il est furieux, il sent pas du tout sa monoplace et il sait pas pourquoi. Et puis surtout je pense qu'il est
c'est
vexé.
Rare qu'il soit battu par Hamilton.
Absolument,
en
c'est ça. Il est vexé de voir Hamilton devant lui et lequel Hamilton dit moi au contraire cette voiture me convient très bien. Pour la première fois je la sens la Ferrari. Tu te rends compte depuis le début de la saison. Ouais. 2025. Donc là, ça se sent. D'ailleurs, on le voit. Hein. Lui-même, il n'a pas le même visage, il n'a pas le même regard. Donc, il a réussi à la régler. Il dit, on a fait un super travail avec l'équipe. Bon, alors, on va voir en course, hein, parce que, comme tu le sais, souvent, il se passe une chose. Alors, ce que déplore Charles et Verstappen aussi, soyons clairs, c'est que en qualif, comme tu le sais, l'engagement des pilotes n'est plus payant cette année avec ce règlement-là, puisque tu sais qu'il faut préparer son tour, il faut charger.
Il faut gérer ses batteries, quoi.
C'est le cas de le dire, même Norris, qui n'était pas très méchant, pas très virulent contre ce règlement, le devient. Il dit, mais c'est démentiel, même un tour de décélération maintenant.
Ça n'a rien changé, les mesures qui ont été prises.
Cataplasme sur une jambe de bois. Ouais, écoute, c'est des mesurettes, vraiment. C'est le paradoxe. Ouais,
c'est difficile de prendre des mesures en plein milieu de la saison.
C'est impossible. Parce que la technique est là. Ouais. Ils travaillent sur ce type de moteur et ce type de groupe propulseur. Parce que là, plus que jamais, on peut parler de groupe propulseur. Depuis maintenant 2, 3, 4 ans. Mmh. Depuis que les prémices de ce règlement, à la grande époque où l'électrique, ça y est, ça allait révolutionner, on voit bien ce qu'il en est aujourd'hui, hein. Même pour les consommateurs, ça fonctionne pas du tout. Même avec les subventions que nous payons tous, hein.
Ça fonctionne un peu mieux pour ceux qui, effectivement, vu le prix, l'augmentation du prix de l'essence, ceux qui ont des voitures. Sur l'équipe. Oui. En ce moment, ils sont plutôt contents. Quand même.
Attends qu'ils augmentent le kilowattheure, tu vas voir, ça va pas tarder. Bon, c'est un autre débat. On va pas se risquer là-dessus. Simplement, là, on est en train de petit à petit justement de revenir en arrière et on parle pour 2027. Tu le sais aussi, d'évolution. Alors pour le moment, les motoristes discutent pour avoir à nouveau une prééminence de moteur thermique.
Et ouais, la déclaration de Domenicali qui dit voilà. Le V8, je suis à 100%.
Non mais. Pour. Lui, c'est le champion du monde pour dire l'inverse de ce qu'il a dit la semaine d'avant. Alors là, champion du monde. Là, je pense qu'il pourrait se lancer dans la politique. Là, il a une très très belle carrière qui l'attend. C'est absolument formidable.
Merci mon Jean-Luc, on se retrouve donc tout à l'heure. Mais 22h pour le départ de ce
groupe. Avec plaisir et je reviens tout à l'heure.
Tu m'as mis l'eau à la bouche.
Ah ben j'espère bien. Hein, non mais il y a plein de raisons. Et je te dis, si en plus il pleut ou c'est un peu gramouillé, tu vois, ça va être une merveille. Moi je te le dis.
Ça va être une course de patinage artistique. Ah, ça va être...
Et puis il y a les 500 miles d'Indianapolis, je suis obligé de le dire. Ah, on en dira un mot tout à l'heure. C'est obligé à partir de 18h30 heure française. Ça, c'est quand même...
D'habitude, le Grand Prix du Canada se déroulait en même temps que les 24 heures du Mans.
Et c'était non, c'est oui, c'est ça qui est bizarre. D'habitude, c'était Monaco.
Et Monaco qui était, et voilà, avait lieu en même temps que le Festival de Cannes.
Là, c'est la Formule 1 qui a un peu bougé.
Bouleversé. Bon. C'est quand Monaco, c'est dans 15
jours. Alors Monaco, c'est oui, absolument. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais.
Bah, très
bon, c'est début juin.
Eh ben voilà. Bon, ben mon Jean-Luc, à tout à l'heure. Hein.
Bah oui.
Tout à l'heure, tu restes là, tu restes dans les parages et tu reviens tout à l'heure avec Johan Bresson.
Il y a de la lumière.
Évoquer, ouais, tant qu'il y a de la lumière, il est là et il l'ouvre. 16h21, on revient dans un instant dans l'Intégral Sport. On va s'intéresser au basket parce qu'elle a aussi match important cette nuit au Texas pour les Spurs de Wembanyama, opposé dans le match 4 de la finale de Conférence Ouest à OKC. Et cette fois-ci, il faut gagner. Félix Diabory sera en direct avec nous dans quelques instants.
MC Intégral Sport.
Christophe Cécile.
16h24 sur RMC. Après la Formule 1, on va rester sur le continent nord-américain. On va descendre un peu, on va quitter Montréal et on va aller au Texas, à San Antonio, où va se dérouler ce soir le match 4 de la finale de Conférence Ouest, avec évidemment notre Victor Wembanyama national qui va tenter de permettre à son équipe des Spurs de revenir à deux partout face à OKC. Je l'ai bien prononcé. J'ai Jean-Luc en face de moi, j'ai Félix Gabory qui lui se trouve à San Antonio et qui maîtrise parfaitement la langue américaine. Salut Félix.
Hello Christophe, hello tout le monde. Ouais, c'est OK ici, c'est bon, tu l'as bien dit au okay deuxième coup. C'est impeccable.
Alors, j'ai plus de mal avec Shai Gilgeous-Alexander. Là, tu vas m'aider aussi, comment on dit?
Alors techniquement, on dit Shai Gilgeous-Alexander, mais beaucoup disent Shai aussi. Mais vraiment, on dit Shai. On a eu le débat il y a pas longtemps avec Stephen Brun dans Basket Time, dans le podcast, et c'est bien Shai.
Shai, d'accord, ok. Bon, en tous les cas, celui-là, si on pouvait le faire taire, ce serait pas mal, parce que c'est quand même un sacré joueur. On rappelle, élu meilleur joueur de la saison régulière. Malheureusement, parce qu'on aurait espéré voir Victor s'imposer. Il avait été un peu bouffé par Victor et par les Spurs lors du premier match. Depuis, ça va mieux pour cette équipe d'OKC, donc qui s'est imposée lors des deux derniers matchs, avec notamment cette victoire à du côté de San Antonio, qui fait qu'aujourd'hui, les Spurs sont quasiment dans l'obligation de s'imposer ce soir, hein, Félix.
Ah, ils sont vraiment dos au mur, parce que si jamais ils perdent ce match 4 et qu'ils sont menés 3-1, évidemment ils sont pas éliminés parce que c'est le premier arrivé à 4 victoires, mais être mené 3-1 par OKC, qui est le champion en titre, avec un match 5 qui serait à Oklahoma City, donc à l'extérieur, ça serait vraiment une...
Ah, je crois qu'on a perdu Félix, on va essayer de le retrouver. Félix Gabory, notre envoyé spécial du côté de San Antonio à l'occasion de ces finales de conférence, on l'a retrouvé, on l'avait perdu quelques instants. Donc tu nous disais, Félix, ouais, victoire obligatoire, autrement, le match d'après, aller jouer à Oklahoma City, ça serait compliqué, hein. Ah, on l'a reperdu, me dit-on. Bon, ben on va aller faire un tour au vélo. Tiens, retrouver Morgan Mori qui se trouve dans les rues de Milan, à 34 km de l'arrivée. Il fait chaud cet après-midi, avec toujours nos quatre hommes de tête qui maintiennent une avance à peu près similaire depuis tout à l'heure, un peu plus de 1 minute 50.
Oui, roule sérieusement les trois Italiens et le Norvégien Zvernes, mais l'écart est passé sous les 2 minutes avec le peloton 1 minute 47. On est dans le deuxième des quatre tours de circuit dans Milan. et on vient d'apprendre une nouvelle par Radio Corsa, Christophe, Radio Tour, Radio Giro, c'est que les temps seront gelés à 5 km de l'arrivée. Les équipes estiment que le final du circuit est trop dangereux. Mmh. Donc ouais, à 5 km de l'arrivée, si Jonas Vingegaard est bien au chaud dans le peloton, eh bien, il pourra décélérer tranquillement et finir sans donner un coup de pédale. Le maillot rose pour l'instant du Giro. Dans 4 mantelles, je vous fais le profil. Mattia Baïs et son coéquipier Alessandro Tonelli de la Poltivisit Malta pour la formation Bardiani Martin Marcelluzzi et le Norvégien Frédéric Vernes pour la formation Uno X. Encore 34 km à parcourir. Le Français Paul Magnier est toujours au chaud dans le peloton. Il vise sa 3e victoire d'étape dans ce Giro.
Et on le souhaite, évidemment, on lui souhaite la victoire à Paul Magnier de manière à ce qu'il puisse récupérer le maillot cyclamen, le classement par points de ce Giro, l'équivalent du maillot vert du Tour de France. On verra ça donc tout à l'heure dans 33 km. Après le Giro, place à Roland-Garros. Nous y retournons avec, on l'a vu pour l'instant, très peu de résultats probants pour nos Français cet après-midi. 0 sur 4 depuis le début de cette première journée du tableau final de Roland-Garros. Eric Salio et Florence Herrera sont sur place. Alors, sur qui on pourrait miser pour une petite victoire française? On rappelle qu'il y a 12 Français et Françaises engagés aujourd'hui, hein, Eric.
Oui, alors 0 sur 4 et allez, enfonçons le clou, 0-7 remporté. Hein. Non, on est sur des très très bonnes bases.
Ça va hein. Très très bien.
Parce que je rappelle les défaites d'Arthur Géant en 3-7, Flo, Clara Burel, bon, qui revient de blessure, qui a pas trop pesé lourd. Kieran Jacquet, qui était un peu fatigué par ses qualifs, qui a explosé aussi contre Marco Trungiliti, l'Argentin, qui a quand même la particularité d'être le joueur le plus âgé du top 100. Et ouais, c'est comme une
belle perte. Il est rentré il y a quelques semaines.
Absolument. Et la 4e défaite, elle est toute fraîche. Donc Benjamin Bonzi défait en 3-7 par Sacha Zverev. Et bien maintenant, on va pousser, entre guillemets, derrière Fiona Ferro, Flo, puisqu'elle vient d'entrer sur le central.
Oui, mais c'est aussi dur pour Fiona. Bien sûr, quand tu joues une joueuse top 10 sur le central, même si elle a rejoué un petit peu, ça fait un petit moment que tu te frottes pas à des adversaires de ce niveau-là. Et c'est pas évident. Donc j'ai envie de dire, on se réfugie un petit peu devant les anciens aussi, parce qu'un peu plus tard, on a Pierre Hugerbert qui va jouer un Italien un peu plus âgé aussi, qui est Sonego. Donc tu peux avoir un bon coup à jouer pour Pierre Hugerbert avec son style de jeu très offensif. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile en fait, parce que c'est des matchs où on n'est pas favori. On attend la surprise, on en attendait une avec Benjamin, mais en tout cas qu'il fasse un meilleur match. Ça veut pas dire qu'il va gagner, mais c'est pas une surprise, mais que ses premiers tours soient compliqués.
Donc, Fiona Ferro, Christophe, on va quand même donner l'identité de son adversaire, parce que ça va nous redonner le sourire.
Ah,
c'est Mira Andreeva, tu te souviens? Elle avait perdu sur Louise Boisson l'an passé. Donc elle retrouve
c'était
le central.
D'ailleurs.
Et je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir de retrouver ce cours où elle avait vécu un véritable cauchemar. Elle avait fait une petite crise d'honneur.
Elle est un peu
comme ça.
Elle
craque un peu facilement. Ouais. Bon, elle est toute jeune encore, hein, ouais. On l'excuse. Mais c'était un quart de finale de Roland-Garros. Et c'est vrai que là, Louise Boisson avait fourni un match extraordinaire. Je crois qu'elle a sauvé une balle de 7 dans la première manche avant de prendre le large et donc de décrocher son billet pour les demi. Donc ça avait été le grand moment de Roland-Garros l'an passé. Donc Mira Andreeva contre Fiona Ferro. Je vous redonne des nouvelles de Tito Androguet, qui est mené par Mensik 6-3, 6-2, 3-2 pour le Tchèque, qui a le break dans la troisième manche. C'est un match qui se déroule sur le court Simon Mathieu.
Et donc en plus, il est sorti se faire soigner par le kiné, en dehors sur une zone adducteur un peu cuisse. Donc ils sont partis le soigner en dehors du terrain quand ça touche la zone autour du bassin. Donc c'est physiquement, ça a l'air aussi compliqué pour Droguet.
Pas là pour nous remonter le moral, les garçons. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Et on compte sur Fiona. On compte sur Fiona.
Elle va
faire verdir notre ami Andreeva tout à l'heure. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. 16h31. On a retrouvé Félix Gabory. Les liaisons avec le Texas, pas toujours facile. Félix, tu nous disais donc victoire obligatoire, parce que derrière, si tu dois aller t'imposer à Oklahoma City, même si ça avait été le cas lors du premier match, mais bon, une fois que la série a lancé, c'est plus difficile d'aller s'imposer à l'extérieur. Hein.
Bah, surtout que sur le premier match qui était OKC, les Spurs s'étaient imposés dans un match qui était vraiment épique. C'était parti en double prolongation. Victor Wembanyama avait marqué 41 points, pris 24 rebonds. C'était vraiment un match historique. Mais depuis ce match-là, malheureusement, OKC s'est vraiment ajusté. Et l'impression qu'il nous laisse sur les deux derniers matchs, c'est vraiment l'impression d'un rouleau compresseur. Ce rouleau compresseur du champion qui a su s'ajuster et qui laisse des Spurs face à eux qui sont complètement sans solution. Il y a notamment l'apport des bancs, hein, Christophe, qui est vraiment impressionnant, l'apport des remplaçants. Sur le match 3, il y a quasiment 40 ou 50 points de différentiel entre les deux bancs des deux équipes. Donc c'est vraiment sur cette partie-là que les Spurs doivent s'ajuster. Victor Wembanyama, il a pas grand-chose à se reprocher, notamment sur le match 3, c'était le meilleur marqueur des Spurs, mais il faut qu'il trouve un petit peu de...
Ah, je crois qu'on a de nouveau perdu Félix. Bon, on essaiera de le retrouver tout à l'heure, mais là, je pense que la liaison est un peu compliquée avec les Spurs, mais vous suivrez donc ce match. Ce sera cette nuit à partir de 2h du matin, match 4 donc entre les Spurs de Wembanyama et OKC, champion NBA sortant. 16h33 sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour la suite, avec notamment du Durand, à moins qu'on y aille maintenant, je ne sais pas. Non, dites-moi. Eh ben, on va tout de suite au hand. On va retrouver Clément Brossard pour la finale de la Coupe de France féminine. Ça va se dérouler à Bercy dans une heure maintenant, entre Metz et Dijon. Clément Brossard est sur place. Salut mon Clément.
Salut Christophe, salut à tous, sur place avec Jennifer qui est en train de chanter un petit concert d'avant-match.
Oh là là,
l'ancienne star connais... de la Star Academy.
Ah ouais, mais je sais même que tu connais les paroles par cœur comme Roxane. Ah,
ma révolution pour commencer. J'espère qu'après on va s'exposer un peu plus au soleil, cette circonstance.
Oh là là.
Donc voilà, elle nous offre un petit showcase avant la finale.
Par cœur tous les titres de Jennifer. Alors, match important entre Metz et Dijon, c'est la finale de Coupe de France féminine. Ce sont deux équipes impressionnantes, toutes les deux. Metz, on le rappelle, qui vise un quintuplé dans cette Coupe de France, face à Dijon qui vient de vivre une saison exceptionnelle avec la victoire en Coupe d'Europe. Donc c'est un match assez indécis qui attend les deux équipes, Clément.
Exactement, en 5 Coupes de France d'affilée, ce serait un record pour les Messines, pour les Dragons qui depuis des décennies sont vraiment tout en haut du handball français, qui n'ont très peu d'équivalent, avec une saison encore bien complète, 23 victoires en 24 matchs pour ces filles qui vont disputer fin juin là, le Final Four de Ligue des Champions. Mais voilà, cette année il y a eu meilleur qu'elle, il y a eu Brest notamment en championnat qui sont devant les Messines, et donc il y a ce spectre de la saison blanche là qui traîne autour des filles d'Emmanuel Maillonnat. Sauf que Metz, c'est tellement une équipe qui a horreur plus que quiconque de la défaite, qui a l'habitude de gagner vraiment tout le temps, ne peut pas se permettre d'avoir une saison blanche. Et cette Coupe de France, cette finale-là qui se présente cet après-midi, peut être l'opportunité déjà de remporter un premier titre et de soulager ses filles. Mais sauf qu'en face, tu l'as dit Christophe, il y a une formation dijonnaise qui va venir conquérante, parce qu'elle surfe notamment sur une victoire en Ligue Européenne, la petite Coupe d'Europe le week-end dernier, c'était à domicile face aux Allemands de Thuringberg, qui était menée notamment de 9 buts à la mi-temps et qui ont renversé la rencontre pour s'imposer de 4 buts. Donc il y a une force de caractère aussi, les Messines sont prévenues, elles ont quasiment toutes regardé ce match, cette finale de Ligue Européenne, et elles savent que les Dijonnaises vont avoir un petit peu les dents qui rayent le parquet, surtout qu'il y aura dans cet effectif de Dijon notamment Clément Alcacer, l'entraîneur qui était notamment responsable du centre de formation Messin il n'y a pas si longtemps encore, qui jouera sa première finale contre son ancien club. Et puis beaucoup de filles, on pense notamment à Nina Dury qui va jouer contre ses coéquipières de l'équipe de France. Des petites histoires dans le match aussi, Lilou Pinta, la pivot de Dijon qui va rejoindre Metz la saison prochaine quand Anne-Emmanuel Augustine va faire le chemin inverse. Laura Favarc aussi, Kenza Bouguerche qui sont formées à Metz et qui vont affronter donc leur club formateur. Bref, il y a plein de petites histoires dans cette finale, et il y aura surtout deux équipes en grande forme. C'est presque un match de Coupe d'Europe, une finale même de Coupe d'Europe avant l'heure, mais c'est bien la finale de Coupe de France qui va opposer Metz à Dijon. Coup d'envoi à 17h45.
Merci Clément, à tout à l'heure, 17h45 donc pour le coup d'envoi de ce match entre Metz et Dijon qu'on vivra évidemment sur RMC. 16h36, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'Intégral Sport. On va parler de football avec Maxime Chano qui va nous rejoindre. On va évoquer le barrage entre Laval et Rouen, entre la Ligue 2 et le National, pour savoir qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Et puis la présentation et les enjeux de la 38e journée et dernière journée de Premier League, avec les adieux de Guardiola à Manchester City. Ce sera à vivre à partir de 17h sur RMC. À tout de suite.
C'est Intégral Sport.
Christophe Cessier.
16h39 sur RMC, l'Intégral Sport. Avant de parler foot dans un instant, petit détour par le Giro. Morgane Maury, 24 km de l'arrivée, où en est notre échappée, toujours devant?
Oui, l'écart diminue, 1 minute 27 pour les 4 fuyards sur le peloton. Encore 24,2 km à parcourir dans les rues de Milan. On est sur l'avant-dernier tour, et lorsque les coureurs vont passer la ligne d'arrivée, sur la ligne de départ, la ligne d'arrivée une dernière fois, Christophe et les temps seront gelés. Tout à l'heure, je vous avais dit temps gelé à 5 km de l'arrivée. Ben non, on a encore reculé cette décision au moment du passage avant le dernier tour. 24 km et les 4 hommes, 3 Italiens et un Norvégien, ont 1 minute 24 sur le peloton. Ce sont les Lidl Trek et les Unibet Rose Rocket qui sont à la manœuvre devant l'équipe de Jonathan Milan et l'équipe de Dylan Groenewegen, les sprinteurs, les adversaires de Paul Magnier, pour essayer de revenir sur les fuyards.
Merci Morgane. 16h40 sur RMC, c'est la saison des barrages en football, avant le match de barrage capital entre Nice et Saint-Etienne qui va arriver dans la semaine, match aller-retour. Eh bien, nous allons vivre, pardon, ce soir, le match retour des barrages entre la Ligue 2 et le National, match qui va opposer Laval à Rouen. On va retrouver l'ami Christophe Lécuyer qui va nous commenter ce match cet après-midi qui aura lieu à Laval. Salut Christophe,
bonjour à tous.
Match important, évidemment, le coup d'envoi sera donné à 17h. On est également avec Maxime Chanot, l'homme des barrages, l'homme de tout d'ailleurs. Il n'est pas
l'homme du football, en tout cas.
L'homme du football, l'homme du ballon.
Salut Maxime. Ça va très bien, merci. Ouais.
Bon, période de barrage, c'est toujours période de barrage. Un peu compliqué pour les clubs, hein, bah,
surtout pour ceux qui les jouent.
Ouais.
Ouais, en effet, alors j'ai bien connu, parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne un petit peu aussi comme ça. Tu sais, les fins d'année sont toujours un petit peu stressantes. Là, c'est vrai que bon, pour ceux qui montent, ça peut être cool. Ceux qui descendent, c'est toujours un petit peu plus compliqué, surtout en fin de saison avec beaucoup de fatigue. En tout cas, ça va être excitant pour tous les fans de football.
Exactement. Donc, ce match entre Laval, qui espère sauver sa tête en Ligue 2, Christophe, et Rouen, le club normand, qui n'a plus vu l'élite et le professionnalisme depuis plus de 20 ans maintenant, et qui fait rêver tous les supporters de cette équipe qui a quand même de sacrées lettres de noblesse dans le football français, hein.
Ouais, évidemment, le FC Rouen, c'est un club historique du foot français. Alors comme le Stade Lavallois, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette équipe rouennaise, elle a notamment connu la Coupe d'Europe. Hein. Alors elle s'appelait autrement à l'époque, en 1969-1970. À l'époque, c'était la Coupe des villes de foire, pour laquelle c'était qualifié. Ouais. Ouais. Exactement. Et le FC Rouen y avait participé. Et c'est un club qui a gardé une forte effervescence. Il y a une ferveur incroyable autour de ce club. C'est probablement le seul club national.
C'était les Diables Rouges. C'est ça, Christophe. Ouais, c'est ça.
Exactement. Et le stade Robert Diochon affiche complet à chaque match de National. Et encore cet après-midi, ils seront 620. Ils auraient pu être plus. Hein. 620, c'est la capacité de l'espace réservé aux supporters visiteurs. Donc le stade qui sera d'ailleurs complet, hein, cet après-midi. Le stade ici qui affichera complet. Le match va se dérouler à guichet fermé. 9620 supporters. Et tu l'as dit fort justement, le FC Rouen aspire à retrouver la Ligue 2, un niveau qu'il n'a plus fréquenté depuis 22 ans.
Alors c'est pas un derby. Il y a un peu plus de 2 heures de route, mais c'est quand même deux stades qui sont pas très éloignés, donc il y a aussi une supériorité régionale à affirmer ce soir, hein.
Oui, ça reste de clubs de l'Ouest, même si Rouen est un peu plus tourné vers la région parisienne, il faut bien l'avouer, avec un objectif différent, on l'a dit, pour le Stade Lavallois, hein, qui a retrouvé la Ligue 2 il y a 4 ans et qui compte bien y rester. Une saison plutôt compliquée, hein, pour les Mayennais. Les joueurs d'Olivier Frappoli avaient pas trop mal commencé, mais il y a eu une série incroyable de 10 matchs sans victoire en début d'année qui a plongé le club lavallois dans les profondeurs du classement. Et puis finalement, eh bien, ils nous ont offert un suspense incroyable, ces deux formations, chacun dans son niveau, puisque Laval a arraché le barrage lors de l'ultime journée. Et tout reste à jouer, surtout Christophe, cet après-midi, parce que mardi au stade Robert Diochon, les deux équipes n'ont pu se départager, un but partout. Le match a été très serré, très équilibré, donc très clairement tout reste à faire cet après-midi.
Tout reste à faire donc pour ces deux équipes. Rouen, Maxime, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, jeune footballeur? Évidemment, t'as pas connu les grandes époques, la grande époque.
J'ai joué contre eux quand j'étais prêté par Le Mans à Guignon en National. Ça m'est arrivé de jouer deux matchs contre Rouen, dont un match là-bas. Ouais, c'était sympa, l'ambiance c'était cool. Je pense que ce club a eu quelques problèmes financiers entre temps. C'est vrai que là ils sont bien remontés. C'est vrai que s'ils arrivaient à valider leur montée en Ligue 2, ça serait juste incroyable pour eux et pour toute la ville.
Mais c'est aussi important pour Laval, le club de Marc Madiot, qui est supporter évidemment de cette équipe des Tangos de Laval. Donc coup d'envoi tout à l'heure à 17h, match à suivre avec Christophe. À tout à l'heure, Christophe Lécuyer. Merci monsieur le Normand. 16h43 sur RMC. On va maintenant parler de football anglais avec la 38e et dernière journée de la première Ligue. On connaît déjà quasiment tout, hein, Maxime, le nom du champion. Arsenal, le nom d'une partie des équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, mais il y a encore des enjeux et on va les évoquer avec Corentin Roland qui va nous faire vivre ce multiplex tout à l'heure à partir de 17h. Comment ça va, Corentin? Il est là? Il est avec nous? Il n'est pas encore avec nous. Alors, les enjeux, c'est aussi la dernière, Maxime, c'est la dernière de Pep Guardiola à la tête de Manchester City. C'est quand même une sacrée page qui se tourne pour le football anglais et surtout pour Manchester City, cet homme qui a fait gagner un nombre de trophées incroyable. Je crois que derrière Sir Alex Ferguson, c'est l'entraîneur qui a été le plus prolifique.
C'est une page qui se tourne, même pour lui. Hein, c'est vrai, Pep Guardiola qui a donc annoncé à un an du terme de son contrat qu'il allait un petit peu sortir des bancs de touche, au moins temporairement. C'est vrai que ce qu'il a fait à Manchester City depuis son arrivée, on vous le rappelle, hein, mais il est arrivé en 2016, donc ça fait presque 10 ans. 10 saisons où est-ce qu'il a tout gagné, et surtout, il a gagné la Champions League, la première du club. On sait que c'était l'objectif numéro 1. Il me semble qu'il a remporté aussi 6 championnats, ce qui n'est quand même pas rien, mais au-delà de son palmarès.
Et avec une marge incroyable en plus, pendant très régulièrement, même s'il y a eu aussi des bagarres avec Liverpool.
Exactement, et même,
ils ont quand même vraiment dominé le
football. En règle générale, et même encore cette saison où est-ce qu'on dit qu'en effet, ils ont laissé filer le titre, ils ont quand même 2 coupes. Donc je veux dire, la saison est quand même malgré tout réussie. Mais c'est vrai qu'au-delà de son palmarès et de ses titres, moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est évidemment ce qu'il a apporté au football anglais, au football en règle générale. On va pas revenir sur son passif, ce qu'il a fait à Barcelone, ce qu'il a fait au Bayern Munich. Mais c'est vrai qu'à Manchester, encore une fois, je trouve qu'il a innové. Et c'est pas rien quand tu regardes un petit peu tous les entraîneurs qui fonctionnent derrière, que ça soit Vincent Kompany, que ça soit Xabi Alonso, que ça soit Arteta même, donc champion avec Arsenal, champion d'Angleterre. C'est tout quand même des jeunes entraîneurs qui ont été au contact de Pep Guardiola. Donc au-delà de ses statistiques et de son palmarès, ce que moi j'ai envie de retenir, c'est vraiment à quel point il était inspirant pour tous les nouveaux entraîneurs qui arrivent et qui réussissent.
Les entraîneurs espagnols qui ont une sacrée cote quand même, hein, qui aussi, réunissent, aussi. Ils réussissent partout, que ce soit Luis Enrique au PSG, Luis Enrique aussi, Unai Emery et également Guardiola. Mmh. Il y a une génération incroyable.
Hein. Ouais, mais je pense qu'ils ont surtout compris beaucoup de choses au football. Et puis c'est un cycle en fait, hein, tout le monde les suit derrière quand ça fonctionne.
Mmh. Évidemment,
on a envie de les copier, mais c'est vrai que ce qu'a fait Pep Guardiola sur ces 10 dernières saisons à Manchester City, c'est exceptionnel. Et de le voir partir évidemment ce soir, enfin, en tout cas aujourd'hui, du championnat anglais, on fera tous évidemment verser une petite larme. En tout cas, moi, c'est vrai que ça me fait monter un petit peu d'émotion.
Après, on espère le retrouver ailleurs, dans un autre club, d'autres défis. Mais c'est vrai que
c'est une équipe nationale d'ailleurs.
Pardon ?
Peut-être une équipe nationale.
Peut-être une équipe nationale.
Ouais, on parlait de ça.
Mais bon, là, c'est quand même dommage parce qu'il y a la Coupe du Monde juste maintenant.
Oui.
Ça te fait attendre 4 ans, mais tu peux reconstruire d'un autre côté.
Et puis, je pense qu'il a aussi besoin un peu de repos parce que quand tu es entraîneur de Manchester City.
C'est un peu stressant, ouais. On l'a vu, je pense, le visage pendant la saison, ça a été quand même dur.
Ça peut être fatigant.
Corentin Roland, ça y est, on l'a retrouvé pour évoquer cette dernière journée de Première Ligue. Salut Corentin.
Oui, avec des enjeux. Bon, déjà un enjeu symbolique, le trophée de Première Ligue remis en fin de match à Arsenal sur la pelouse de Crystal Palace. On va aussi suivre d'un œil cette rencontre parce que les Gunners sont donc champions et ils font tourner à 6 jours de la finale de la Ligue des Champions. Oui. Saka, Odegaard, Gabriel, Rice, Gyökeres ou Havertz, tout ce beau monde est sur le banc des remplaçants cet après-midi. Et pour le reste, en haut de tableau, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de suspense, comme tu l'as dit. Arsenal, City, Manchester United, Aston Villa et Liverpool, sauf en cas d'immense revers des Reds contre Brentford. Fort joueront la Ligue des Champions. Il y aura de l'enjeu un peu plus bas, avec notamment un duel entre Chelsea et le Sunderland de Régis Lebris pour une place européenne, et du suspense également en bas de tableau avec le Tottenham de Roberto De Zerbi qui doit faire au moins match nul face à Everton cet après-midi pour assurer son maintien. Et puisque vous avez parlé d'adieu, laissez-moi ajouter ceux de Bernardo Silva à Manchester City et surtout de Mohamed Salah, qui clôture donc son chapitre également de presque 10 ans à Liverpool, à Anfield.
Que des légendes.
Salah qui n'a pas été tendre d'ailleurs avec le jeu pratiqué par Liverpool et par son entraîneur. C'est un peu tendu, hein, Corentin, en ce moment.
Oui, alors a priori, il y aura une trêve cet après-midi pour laisser place à l'hommage, et le public est en partie venu cet après-midi pour rendre hommage, alors non seulement à Mohamed Salah, mais aussi d'un joueur dont on parle un petit peu moins en France, qui fait forcément un peu moins parler, mais Andy Robertson, qui a été aussi l'un des grands visages de cette équipe de Liverpool et qui devrait également quitter Liverpool. Donc voilà, c'est surtout un match commémoratif où Liverpool, a priori avec un avantage de 3 points et une différence de but largement favorable sur Bournemouth 6e, va se qualifier tranquillement en Ligue des Champions. Donc l'enjeu sportif, il est minime à Liverpool, et on va surtout se concentrer sur ces célébrations là et offrir un dernier beau chapitre dans cette dernière année compliquée pour Mohamed Salah à Liverpool.
Oui Maxime, parce que c'est vrai de voir Salah cette dernière saison, la saison de trop finalement ça aurait été pour lui.
Ouais, c'est toujours compliqué quand t'es joueur d'arrêter, en tout cas de prendre la bonne décision quand est-ce que tu dois partir. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à Mohamed Salah. Il aurait peut-être dû partir l'année d'avant, mais après voilà, encore une fois, c'est tellement une légende qu'on va oublier entre guillemets ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait sous l'air Klopp, c'était juste incroyable honnêtement. Enfin moi j'ai eu la chance de jouer aussi contre lui, c'est un niveau encore un niveau exceptionnel. C'est vrai que c'est
t'as joué contre lui.
Ouais, j'ai joué contre lui en amical, et c'est vrai que quand tu vois un petit peu la manière dont il manie le ballon, l'influence qu'il a eu en première ligue et sur le jeu de Liverpool, honnêtement on n'a qu'une envie, c'est de tirer mon chapeau et de lui dire bravo monsieur, parce que vraiment vous nous avez fait, c'est pour des joueurs comme ça finalement que tu achètes tes tickets de stade. Et c'est vrai que de le voir partir Bernardo Silva aussi, ce qu'on en a un petit peu parlé aussi à Manchester City. Et bien, la première ligue perd des talents, perd des icônes, mais bon, je sais aussi qu'il y a des joueurs qui arrivent derrière, et je suis confiant sur le fait qu'on va revoir des nouveaux joueurs, et encore une fois, c'est cyclique.
Corentin, comment a été vécu le titre d'Arsenal? Est-ce que j'ai lu que beaucoup de fans de football anglais n'étaient pas vraiment ravis que Arsenal s'impose cette saison, ils n'ont pas montré finalement le meilleur jeu auquel on a pu assister pendant des années avec City, avec Liverpool, et puis Arsenal n'est pas toujours le club le plus populaire en Angleterre,
hein. Oui, bien sûr, et c'est paradoxalement l'année où ils ont été le plus pragmatique, presque boring pour les supporters anglais, qu'ils ont réussi à gagner ce fameux titre après 22 ans sans Premier League, ce qui est une éternité pour Arsenal. Alors il a été bien fêté par contre par les joueurs eux-mêmes mardi soir lorsque Manchester City a fait match nul à Bournemouth. Certains ont fini à plus de 5h du mat dans une boîte.
Ah d'accord, mais c'est très bien, mais qui continue comme ça avant la finale de la Ligue des Champions, c'est parfait.
Non, mais entre temps, il y a eu un peu de repos, Christophe, évidemment. Et là, comme je vous le disais, il y a eu aussi un gros turnover, évidemment, ce match-là, avec toutes les stars, en réalité, qui sont sur le banc. Donc, évidemment, ils sont entrés maintenant dans leur préparation pour la finale de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, autant ils vont avoir le trophée en fin d'après-midi qui leur sera remis, autant ce trophée-là ne sera célébré avec les supporters qu'après la finale de la Ligue des Champions dans les rues de Londres.
D'accord, donc la fiesta attendra un petit peu pour Arsenal. On espère qu'ils n'auront que le titre de champion d'Angleterre à fêter, hein, Maxime.
Pour nous Français, oui, évidemment. Mais c'est vrai que bon, la saison des hommes de Mikel Arteta est quand même honorable, hein.
Bien sûr, les champions d'Angleterre, le championnat le plus relevé en Europe,
parce que j'entends ce qu'on dit. C'est vrai que cette année Arteta était peut-être un peu plus pragmatique en tout cas que ce qu'on avait connu sur les dernières années, mais derrière ça a fonctionné. Moi je sais que j'ai pris énormément de plaisir à les voir jouer, et en effet bon, ça peut être logique, hein, de voir un peu de turnover aujourd'hui à l'image de ce qu'a fait aussi le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, mais voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, il faut aussi reconnaître que les hommes, les Gunners, ont été exceptionnels, et bravo à eux, vraiment, ça a été une très très belle saison de la part des Gunners d'Arsenal.
Bon, un petit mot quand même sur Roberto De Zerbi, hein, qui n'a pas vécu une saison très tranquille.
Que ça soit du côté de Marseille ou de Tottenham, oui, compliqué. Alors j'ai entendu que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a dit un petit peu dans la presse que l'effet De Zerbi n'avait pas vraiment fonctionné. Et finalement, il est arrivé pour sauver le club. Ils sont à 2 points de West Ham. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans les clous. Il me semble qu'ils ont fait 7 points en 4 matchs.
Il y a eu du mieux, ouais. Ils étaient combien?
En tout cas, il est sur une série de 7 points sur les 4 derniers matchs. Bon, West Ham de leur côté a aussi un petit peu marqué le pas, ce qui fait qu'aujourd'hui Tottenham sont dans une situation où ils peuvent se maintenir. En tout cas, ils ont leur maintien entre leurs pieds, si je peux dire. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une saison compliquée. Si tu cumules ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille et la fin de saison pénible entre guillemets de Tottenham, en espérant qu'ils puissent rebâtir vraiment sur quelque chose de sain. Déjà, il faut faire les choses dans l'ordre, évidemment, gagner contre Everton pour pouvoir se maintenir. Mais j'ai bonne confiance que De Zerbi soit l'homme de la situation pour la saison prochaine du côté de Tottenham.
Ouais, Corentin, il est assuré de continuer avec Tottenham, De Zerbi?
Ah bah tout peut changer en cas de grosse désillusion cet après-midi. Alors ils n'ont même pas besoin de gagner, hein. En réalité, on va le rappeler, ils ont une différence de but largement favorable à celle de West Ham, 2 points d'avance. Donc en cas de match nul cet après-midi, ça passerait pour Tottenham. Et dans ces cas-là, oui, on peut parier que le club de Tottenham continuera avec Roberto De Zerbi. Si le club descend cet après-midi en Championship, tout peut changer. Et on sait notamment que les présidents anglais sont rarement réticents à changer d'entraîneur quand ça leur déplaît. Évidemment, on va attendre ces 90 dernières minutes de la saison avant de se prononcer sur le sort définitif de Roberto De Zerbi, qui quand même a ramené un peu plus de résultats dans ce club, même si le maintien il n'est pas encore assuré avant cette dernière journée.
Très bien, donc tous les matchs qui débuteront tout à l'heure à 17h avec des rencontres intéressantes, notamment pour City face à Villa ou encore pour Liverpool. Le dernier match de la carrière, en tous les cas sous le maillot rouge, de Mohamed Salah, Liverpool qui recevra Brentford. Merci Corentin, à tout à l'heure. Maxime également, à tout à l'heure pour suivre ce multiplex de la 38e journée, 38e et dernière journée de Premier League. Où en est-on dans le Giro ? On approche de la ligne d'arrivée, mon cher Morgan, et l'avance des quatre échappés a tendance à fondre au soleil, sous le beau soleil milanais.
Oui, elles diminuent, Christophe, elles font comme les gelati que tu aimes bien, que tu mangeais au Duomo.
J'en ai mangé quelques-unes.
Devant le Duomo, il reste 11 km et 49 secondes d'avance pour les quatre fuyards, trois Italiens et un Danois. Et forcément, comme ça roule fort, plus de 50 km par heure, on est obligé de sacrifier des poissons pilotes pour les équipes de sprinteurs, la Quick Step de Paul Magnier, l'équipe de Dylan Groenewegen aussi, qui envoie ses poissons pilotes rouler très très vite pour ramener les fuyards à la raison. 46 secondes d'avance pour les quatre hommes qui sont partis au début de cette étape. Encore 10 km et 600 mètres à parcourir, 10,6 km à parcourir avant l'arrivée sur une grande ligne droite de 2 km à Milan. Paul Magnier est toujours bien au chaud dans le peloton.
Merci Morgane. Donc 10 km encore à parcourir et on espère évidemment la victoire de Paul Magnier qui tout à l'heure, grâce à sa victoire dans le sprint intermédiaire, est revenu à égalité de points avec Narvaez pour le maillot cyclamen. Yann Bredov va suivre ça avec beaucoup d'intérêt avec le sprint. Alors c'est pas toi qui va le commenter, c'est Morgane aujourd'hui. Hein.
Ouais, je dis ça, Morgane. Salut Christophe, salut à tous.
Alors au programme.
Au programme, beaucoup de choses finalement. Donc tu en as parlé, tu l'as présenté. Il y aura évidemment la dernière journée de Premier League avec tous les enjeux également, un barrage retour important entre Laval et Rouen pour savoir qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Le tennis avec Roland Garros, on sera avec Eric Salio et Flo Serra pour parler de tout ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est compliqué hein, pour les Français, le ciel est bleu au-dessus de la porte d'Auteuil, mais bon, les Bleus se font éliminer les uns après les autres. Il y aura également
c'est dans placer quand même un. On est 12, il y a 12 Français et Françaises aujourd'hui.
Ouais.
Le challenge d'Eric Salio de Florent Serra, c'est au moins d'en qualifier.
Je vais essayer de les aider aussi.
Parce que je crois qu'ils sont en mauvaise posture.
Exactement. Il y aura également la finale de la Coupe de France du handball féminin entre Metz et Dijon. Dijon qui vient de gagner une Coupe d'Europe. Metz qui est un peu l'équipe phare à suivre en France. Et puis on continuera à parler F1 avec Jean-Luc Roy qui reste pour nous présenter le Grand Prix du Canada. Voilà tout ce qu'il y a au programme de cette intégrale qui arrive dans un instant.
Eh ben c'est parfait, restez bien à l'écoute d'RMC. Merci Johan, merci à Jean-Luc et Maxime. Et on se retrouve très bientôt, mais vous restez à l'antenne avec Johan Bredov et la suite de l'Intégral Sport. Bon après-midi, ciao.
RMC Intégral Sport.